Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, bienvenue dans les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Twin et aujourd'hui je suis accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Twin.
Et oui, c'est de nouveau notre couple qui se reforme, notre duo magnifique.
Ne révèle pas tout à tout le monde, s'il te plaît. Et on va commencer, puisque c'est le début de l'année, par vous souhaiter à tous une très bonne année ludique 2020.
Excellente année ludique à tous. Jouez bien, jouez beaucoup, jouez mieux même. On va commencer un petit retour sur les commentaires du jeu du mois du mois dernier.
Oui.
Où vous étiez, donc c'était toi et BenoFX.
Tout à fait.
Qui nous parlaient de Fiesta de los Muertos et de Poulpoul, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on a eu des commentaires, on a eu un premier commentaire de Kinarbre. Qui était un commentaire super cool, je trouve. En fait, pour lui, il trouvait que on avait atteint un certain niveau, selon lui, dans la critique au niveau de cette chronique. D'une part, on cherchait pas forcément à parler de jeux qui faisaient le buzz à tout prix. C'est pas forcément ce qu'on recherche, en fait. Hein. Simplement, on va chercher un jeu sur lequel on a envie de parler. Ce qu'il disait aussi, surtout, c'est qu'on avait une critique qui était assez constructive. Qu'on n'hésitait pas à souligner aussi les défauts du jeu et pas uniquement ses qualités, même si c'est des jeux en général qu'on choisit pour leurs qualités et pas pour leurs défauts.
En tout cas, c'était un commentaire plein d'amour. On le remercie
ouais,
pour
c'est
ça.
Très
c'était
gentil,
super,
ça.
Ouais.
Et il n'est pas le seul, mais il nous a parlé aussi du rapprochement qu'il faisait entre Poulpoul et Mamma Mia.
Et oui, ce magnifique jeu qui effectivement on empile des cartes au milieu et il faut se souvenir de tout ce qui a été mis.
Ouais, donc tu nous as fait aussi la remarque d'ailleurs de ton côté. Alors c'est vrai que c'est un jeu auquel ni BenoFX ni moi n'avons joué malheureusement. Je sais que c'est un vieux, enfin c'est un jeu assez ancien.
Oui oui, il date de 98. Hein.
Voilà, qui a une certaine renommée. Moi c'est pas la première fois qu'on en parle, mais je l'ai pas chez moi et. Et on a beau m'en parler, on me l'a jamais présenté, donc ça m'a pas évoqué le truc sur le coup. Même si on m'avait déjà expliqué le principe, dont je me rappelle pas dans le détail, mais ça aurait pu potentiellement m'évoquer le truc. Mais bon, comme j'ai jamais joué, c'est sûr que tu fais moins le lien aussi, quoi. Voilà. Bah tu peux peut-être du coup en parler un peu mieux que moi.
Oui, alors c'est un jeu où on fait des pizzas en fait, et chacun son tour, on va mettre 2 champignons, 3 chorizo, un fromage au milieu sur une pile qui s'accumule. Et on a aussi dans la main des commandes de pizza, donc par exemple sur laquelle il y a écrit 2 olives et 2 chorizo. Et au moment où on pense que sur la pile s'est accumulé au moins suffisamment d'ingrédients pour faire sa pizza, on met sa pizza. Mmh. Et donc tout le monde les met les uns après les autres, et après on redépile le paquet dans l'autre sens pour voir qui a réussi ses commandes. Quand on réussit une commande, bien sûr les ingrédients sont consommés, quand on la rate, les ingrédients ne le sont pas, et donc peuvent faire gagner les autres joueurs après. Mmh. Donc il y a cet aspect de mémorisation des cartes qui sont mises au milieu, et de rétro-planification une fois qu'on vérifie comment s'est déroulée la partie.
Mmh, ouais. T'as moins l'effet des cartes qui se répondent les unes les autres,
oui.
Mais t'as une contrainte de contrat, d'objectif en fait à réaliser.
Oui, tout à fait. Ouais. Et on avait aussi un commentaire de Altaripa, qui lui voulait rapprocher Poulpoul de Shadows Over Camelot, le jeu de cartes. Mais je ne connais pas ce jeu. Est-ce que toi, tu le connais?
Je l'ai jamais joué, mais effectivement, je me rappelle qu'il y a une notion de mémoire, en fait, dans Shadows Over Camelot. Donc effectivement, je doute pas qu'il y ait un lien. On va aussi, je sais plus si on empile ou si on dépile pour le coup des cartes. Mm-hmm. Mais je fais confiance à Altaripa pour le coup. Je me rappelle très bien qu'il y avait une notion de mémoire, en fait, dans Shadows Over Camelot et qu'il y a une pile de cartes. Mais je t'avoue que n'y ayant jamais joué, je peux pas en dire plus.
Ah, moi non plus. Mais écoute, la prochaine fois qu'on passe un week-end ensemble, ça sera un jeu à découvrir.
Ben voilà, pourquoi pas. Mmh. Donc voilà, c'était les quelques retours qu'on avait eus lors de notre chronique précédente.
Voilà, la partie sur les commentaires est finie. C'était la meilleure partie du podcast. Vous pouvez aller faire autre chose.
C'était gentil, avec toi-même d'ailleurs.
Mais sinon, vous pouvez rester avec nous parce qu'on va vous parler de 2 jeux. Donc moi, je vais vous parler de Blitzkrieg. Et toi?
Et moi, je vais vous parler de Oriflamme. Écoute, je te propose de commencer et de nous parler de Blitzkrieg.
Allez. Alors, va tout de suite faire la petite fiche signalétique de Blitzkrieg, qui s'écrit avec un point d'exclamation si vous le cherchez, parce que des jeux qui s'appellent Blitzkrieg, il y en a des soixantaines sur BGG.
Ah, carrément.
Ouais. Alors c'est un jeu de...
Il y a des petits noms derrière, non? Il n'y a pas de petits noms derrière sur ces Blitzkrieg.
Alors il y a un sous-titre, World War II in 20 minutes. C'est la deuxième guerre mondiale en 20 minutes.
Ah, ça nous vend du rêve là déjà.
Là j'espère que vous êtes tous très hypés.
Bon, je sais pas si ça doit hyper, mais ça doit te dire en tout cas que tu joues vite.
C'est ça. Alors c'est un jeu de Paolo Mori. C'est un auteur qu'on connaît peut-être déjà parce qu'il a fait Libertalia, Augustus, Pandemic Rome.
Yes.
C'est édité par une entreprise qui s'appelle PSC. Et PSC, ça veut dire Plastic Soldier Company. Donc on sent que c'est des gens qui aiment bien tout ce qui est autour du wargame. Yeah. Ça a été illustré par Alan D'Amico, qui a notamment illustré Bretagne, Kepler 2042 et Whitehall. Et Paul Sizer, c'est un jeu pour deux joueurs, et seulement deux joueurs, qui se joue plutôt à partir de 14 ans pour des parties de 20 minutes. En tout cas, c'est la pub qui le dit. Mmh. Alors, le principe de Blitzkrieg, effectivement, c'est comme ça que c'est vendu, c'est la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. Donc, pour mémoire, la Seconde Guerre mondiale, elle a duré 6 ans. et donc, là, tout de suite, on a l'impression de se faire un petit peu marketer, hein, parce que... Tous les ans, il y a des jeux qui sortent comme ça. On vous dit, oui, c'est un jeu de civilisation en moins d'une heure. C'est un jeu, un 4X en moins de 35 minutes, etc., etc.
Alors, en tout cas, on sent que c'est devenu un argument marketing, comme éventuellement d'autres, quoi.
Ouais,
c'est,
ouais.
La durée de partie.
On sent bien que c'est devenu un argument de vente, que les joueurs ont, pour une bonne partie d'entre eux, l'intention de passer moins de temps sur une partie, mais de jouer plusieurs fois dans la soirée. Et l'argument de dire c'est une expérience extraordinaire, mais il en faut 12 heures, c'est moins fréquent.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors si c'est une simulation de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a bien deux joueurs. Il va y avoir un joueur pour les pays de l'Axe, et il y aura un joueur pour les pays alliés. C'est un jeu de placement de tuiles sur des campagnes militaires, donc ça simule les engagements militaires de la Seconde Guerre mondiale.
Placement de tuiles, enfin, il faut pas s'imaginer un truc à la Carcassonne. Enfin, j'ai pas joué, hein, mais j'ai vu des vidéos du coup qui parlaient du jeu. Il faut pas s'imaginer un truc à la Carcassonne. Il faut relier des trucs, quoi.
Non, tout à fait. Je vais rentrer dans les détails, mais on a effectivement des tuiles qu'on va piocher et qu'on va positionner sur des campagnes militaires. Et ce qui va être extrêmement mis en avant dans ce jeu-là, c'est la tension qu'il va y avoir entre les deux joueurs sur la prise de décision qu'il y aura à faire chaque tour. Et effectivement, il faut le reconnaître, ces parties-là durent effectivement 20 minutes. Alors peut-être 25-30 pour les premières, mais plutôt 15-20 une fois qu'on a bien compris les concepts et les bases du jeu. Et surtout, ce qui va faire la force de jeu, c'est que c'est d'une très grande pureté, une très grande élégance, comme dirait le pionfesseur, on pense à toi, big up. Il y a vraiment très très peu de mécanismes, et pourtant avec très peu de mécanismes, ce jeu-là va réussir à générer énormément de tensions et de décisions ludiques. Alors, dans les grandes lignes, on va jouer, il y a une espèce de petit plateau au milieu de la table, et sur ce plateau, il y a ce qu'on appelle des théâtres d'opération. Donc ça va être des grandes régions mondiales où ce sont des dérouler la plupart des engagements militaires de la Seconde Guerre mondiale.
Mmh. Limite des continents, quoi.
Ça y ressemble un peu. Donc, par exemple, on a l'Europe occidentale pour tout ce qui va être France, Angleterre, Allemagne, et puis l'Europe orientale pour tout ce qui est Pologne, Russie, le Pacifique, etc. Et de manière très schématique, il va y avoir des campagnes militaires qui sont représentées par des emplacements. Donc la plupart du temps, ça va être trois emplacements, trois cases, les unes à côté des autres, situées sur une ligne. Et la plupart des théâtres d'opération sont constitués ainsi de trois campagnes. Et en plus de ces trois campagnes militaires, il va y avoir une échelle de rapport de force. Donc ça va être un moyen mnémotechnique pour indiquer à un moment donné lequel joueur, entre l'axe et l'allié, est celui qui a l'avantage sur ce théâtre d'opération. Donc c'est tout simple, hein, c'est des petites cases les unes à côté des autres. Il y en a une rouge au milieu qui indique le point neutre. Et puis d'un côté il y a 15 cases pour en faveur du joueur allié, et de l'autre côté il y a 15 cases en faveur du joueur axe.
Comme un système de tir à la corde en gros, quoi.
Tout à fait. Et donc, en fonction de ce qui va se passer dans la suite du jeu, quand le joueur Axe gagne un avantage, on déplace le cube dans sa direction. Et puis, quand le joueur allié revient dans l'autre sens, on repousse le cube dans l'autre sens. Bon, ce qui permet de pas avoir à recalculer des rapports de force à chaque fois. Il suffit de regarder de quel côté est l'axe et le petit cube rouge. S'il est du côté vert, c'est que c'est les alliés qui mènent. S'il est du côté gris, c'est que c'est l'axe qui mène. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qui va être au milieu sur le plateau. Et le tour de jeu va être très très simple, lui aussi. Chaque joueur va avoir derrière un petit paravent pour cacher à l'autre ce qui se passe. C'est le brouillard de guerre. Trois tuiles qui vont représenter une force armée. Il en choisit une, il la pose sur un des emplacements libres d'une des campagnes d'un théâtre d'opération. Il fait deux, trois petites résolutions et ensuite il repioche une tuile qui cache derrière son paravent et c'est à l'autre de jouer. Donc chacun son tour, comme ça, on choisit une tuile et on la pose. Alors il y a quelques restrictions de placement. Sinon, ça
alors,
serait
juste
pas.
Les tuiles, du coup, enfin, chacun a son lot de tuiles à lui.
Alors, chacun a son lot de tuiles qui cache dans un petit sac, comme ça, il les tire au hasard, il sait pas ce que c'est. Mais la répartition et la valeur de ces tuiles est exactement la même.
D'accord, des deux
au
côtés.
Au début, des deux côtés. Voilà. Donc, il y a des petites restrictions de placement. En fait, les emplacements sont soit marrons, soit bleus. Alors, les marrons, c'est la terre et les bleus, c'est l'océan. Et chaque joueur va avoir des unités, des forces armées terrestres qui peuvent aller que sur le marron, des flottes militaires qui peuvent aller que sur le bleu, et des forces aériennes qui peuvent aller sur le marron ou sur le bleu.
D'accord.
Et l'autre petite restriction, c'est que dans un théâtre d'opération, s'il y a trois campagnes, les joueurs ne peuvent placer des tuiles que sur la première. Et une fois que la première sera terminée, ils pourront seulement à ce moment-là attaquer la deuxième campagne. Et une fois que la deuxième campagne sera finie, ils pourront commencer la troisième.
En gros, tu as une grille dans laquelle tu vas poser tes tuiles, mais tu peux remplir que la première ligne. Tu peux attaquer la deuxième que si la première est pleine, quoi.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, comme on dit que chaque joueur n'a qu'une action par tour, on sent bien qu'il va déjà y avoir un début de tension. C'est que s'il y a trois cases et que je remplis l'avant-dernière, eh ben mon adversaire va pouvoir remplir la dernière.
Avec quel est son intérêt de remplir la ligne ?
Exact. Parfait, mais on dirait que t'as déjà vu ce dont on parle. Alors en fait, le joueur qui ferme une campagne provoque un décompte. On regarde de quel côté est le cube rouge. Et ce joueur-là récupère les points de victoire associés à cette campagne. Et les premières campagnes rapportent pas beaucoup de points, et les dernières en rapportent plus. Bien sûr. Donc il y a ce jeu-là, j'ai bien envie quand même de finir à chaque fois la campagne, parce que si je vois que le marqueur, il est pas trop loin du point neutre, je sais exactement quelle valeur je dois mettre pour ramener le marqueur de mon côté. Ouais. Donc sachant qu'au début... les flottes et les armées terrestres ont une valeur numérique qui vaut de 1 à 3. Et en fait, quand on pose cette valeur de 1 à 3, c'est le nombre de cases dont on déplace le cube rouge dans sa direction.
Ah, c'est pas la valeur des tuiles que tu poses, c'est la valeur qui est sur la case, en fait, déjà.
C'est la valeur qui est sur la tuile. D'accord. C'est pas la valeur qui est sur un placement. Donc c'est l'armée qui a une valeur de 3 qui déplace le cube de 3.
Ouais, mais attends, pourquoi tu dis au début, désolé, il y a un truc que j'ai pas compris, tu dis au début les armées elles sont moins fortes, c'est ça ?
Qu'à la fin ? Au début, toutes les armées valent entre 1 et 3 points, et on sait pas quelle est la valeur, en fait c'est inscrit dessus et on le pioche dans un sac.
Ah mais parce que au bout d'un moment tu vas remettre des jetons dans ton sac qui sont pas celui...
Ah, ça arrivera bientôt, mais effectivement, une des grandes caractéristiques de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu énormément de recherches technologiques qui ont amélioré les capacités de combat des unités. Et donc plus tard, on obtiendra des tuiles plus puissantes qui ont des valeurs qui peuvent excéder 3.
Ok.
Peuvent monter jusqu'à 7.
D'accord, donc en fait ça c'est le set que tout le monde a au départ, et ensuite au fur et à mesure de la partie, tu vas éventuellement, ton set de tuiles, il va s'améliorer quoi.
Il va s'améliorer.
Ouais, mais tu les fous dans le sac quand même, et tu peux ne pas les piocher.
Tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Okay. Alors ce qui va se passer, donc le premier élément intéressant, c'est donc... admettons qu'il y ait une campagne qui ne fasse que 3 cases. Si je commence et que je mets une petite valeur de 2, mon adversaire met une grosse valeur, il met un 3, donc il ramène le cube de une case chez lui. Donc, je suis pleinement en capacité de choisir juste la valeur qu'il faut pour ramener le cube de mon côté et gagner les points de victoire. Donc, il va y avoir un début de tension comme ça qui fait on n'a pas envie d'être celui qui choisit l'avant-dernier emplacement d'une campagne pour donner l'opportunité à son adversaire de clôturer avec juste ce qu'il faut une campagne et récupérer les points de vie, les points de victoire. Pardon. Alors du coup, on pourrait se dire ouais, mais c'est débile parce que bah il suffit de pas jouer l'avant-dernier emplacement et puis d'aller ailleurs et ça de toute bon, façon c'est
au bout d'un moment
on se retrouvera, quoi.
Au bout d'un moment, il faut poser quand même quoi.
Et donc c'est là que notre ami Paolo Mori, il nous a proposé quelque chose d'extrêmement rigolo, c'est qu'en fait les emplacements eux-mêmes vont déclencher une action spéciale au moment où on va y déposer une tuile. Alors certaines des cases vont être vides, elles auront un petit peu moins de valeur, mais quasiment toutes les autres vont avoir un effet bonus. Donc les effets bonus qu'on va chercher très rapidement, c'est des effets qui s'appellent industrialisation et qui permettent de tout de suite piocher une tuile de plus dans son sac et de la cacher derrière son paravent. Ce qui fait qu'au lieu de choisir parmi trois, on va choisir parmi quatre.
Ça, ça va être pérenne en fait quoi.
Ça va être pérenne.
T'auras plus de choix dans la partie. Hein.
Voilà. Bon, sachant que la première fois qu'on le fait, c'est vachement bien parce qu'on passe de 3 à 4 tuiles, donc on augmente de 33% le périmètre
des statistiques. Et la fois suivante, tu augmentes que de 25%.
Et voilà. Aussi, hein, donc ça sera moins intéressant.
mais ça empêchera ton adversaire de faire plus 33%.
C'est ça. D'autant plus que ton adversaire, lui, va peut-être pouvoir regarder des cases avec des petites bombes qui tombent dessus. Mmh. Alors ça, c'est les cases bombardement qui font défausser une tuile au hasard parmi la réserve de ton adversaire. Donc il va passer de 3 à 2.
Ah, c'est pérenne aussi, ah oui.
Ah ah, oui. Et donc il va y avoir comme ça aussi une simulation d'un phénomène d'attrition. Mmh. Il faut pas chercher que à gagner une espèce d'avantage tactique ou à écraser l'adversaire. Il faut aussi aller récupérer les cases qui permettent de récupérer des tuiles.
D'accord.
Et pas se retrouver le bec dans l'eau. Car il y a une petite subtilité, je vous ai pas encore dit comment gagner, hein, je le sais, c'est noté dans mes notes, c'est pour plus tard. Mais je vais déjà vous expliquer comment on peut perdre à ce jeu. On peut perdre à ce jeu si on ne peut plus poser de tuiles à son tour.
Ah ouais, d'accord. Ah oui, tu peux... d'accord.
Donc
tu
si on se fait bombarder cette dernière unité, on peut plus jouer et c'est perdu. Et pareil, si on se fait, par exemple, détruire sa dernière flotte...
Ouais, ou si les emplacements, du coup, sont pas conformes, quoi, j'imagine, du coup, parce que t'as dit qu'il y avait des
terres,
toutes mers. Si t'as pas les bonnes tuiles, du coup, tu peux te retrouver comme un con à pas pouvoir jouer, quoi.
Okay. Tout okay, à fait. D'accord. Voilà, et donc il va y avoir aussi d'autres petits effets bénéfiques comme ça. Donc il y en a un qui est très intéressant, ça va être l'effet recherche. Donc celui-là, il permet d'aller piocher au hasard parmi 16 tuiles spéciales et de les mettre dans son sac. Donc on la récupère pas tout de suite, elle est mélangée au milieu. Avec un peu de chance, on va rapidement la tirer, et sinon peut-être qu'on la tirera jamais. Mais là-dedans, il va y avoir des unités terrestres beaucoup plus puissantes qui ont une force de 4 ou de 5 ou des unités d'aviation qui, en plus de leur force améliorée, permettent de bombarder en plus l'adversaire. Et en plus, il y a une tuile qui est le bombardement nucléaire et qui a une valeur monstrueuse de 7. Donc quand les unités conventionnelles ont normalement une force de 1 à 3 et éventuellement jusqu'à 5, on sent bien qu'une force de 7, c'est monstrueux.
Ah, t'as quand même moyen de renverser la vapeur avec juste cette tuile, quoi.
Mais il y a une petite subtilité, c'est au moment où vous jouez cette force de 7, vous perdez 2 de force dans tous les autres théâtres d'opération.
Ah oui, d'accord.
Parce que les gens sont vraiment pas contents.
T'as pas bonne presse, quoi.
Exactement.
Okay. Ouais.
Donc en plus de la tension qui règne pour savoir qui est l'avant-dernier à prendre un emplacement pour pas laisser l'adversaire clôturer une campagne, il va y avoir aussi cette tension-là de qu'est-ce que je prends tout de suite comme bonus, comme action spéciale, parce que j'en ai vraiment besoin, et quitte à laisser mon adversaire récupérer des points de victoire. Donc il va y avoir une incitation à quand même aller prendre des risques, à se dire bon, j'ai encore 2 points d'avance sur ce théâtre d'opération là, je peux le laisser filer, peut-être qu'il a pas une valeur 2 ou 3, etc. Et la dernière tension, ce qu'on pourrait se dire, bon ben faisons comme dans la réalité, certains des théâtres d'opération, on va les laisser filer à mon adversaire, tout ça, c'est pas grave s'il envahit toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient, je m'en fiche. Et non, parce qu'il y a une une petite catastrophe qui peut s'arriver si jamais votre adversaire pousse le cube rouge jusqu'au bout de l'échelle.
Ouais.
Alors il gagne des points de victoire de toutes les campagnes qui sont encore ouvertes, donc déjà ça c'est pas top.
D'accord.
Mais en plus, tous les emplacements sur lesquels il n'y a pas encore d'unité, ils gagnent les actions gratuites qui y sont liées.
Ah oui, d'accord. Alors, okay. Donc, sans placer les tuiles, il va bénéficier des effets, quoi.
Voilà. Okay. Donc, il gagne les effets, il n'a pas besoin de poser des tuiles, ça risque de faire boule de neige très très rapidement.
Ouais, d'accord, ok. Bah, je me demandais s'il ne gagnait pas carrément la partie, s'il allait jusqu'au bout, moi, tu vois. Mais non, c'est quand même pas si fort, mais ça semble donner un avantage certain,
beaucoup.
Quand même.
C'est clair. En tout cas, moi, quand c'est arrivé, ça a désigné le vainqueur derrière.
Hein. Ouais.
Et donc, comment est-ce qu'on gagne ? Eh bien, en fait, on gagne quand un des joueurs a accumulé 25 points de victoire.
Ok, donc, d'accord. Donc, c'est un système de course, au final, sur la fin de partie, quoi.
Oui, exactement.
Ouais. Ça a l'air assez riche, hein, pour un jeu s'il tient vraiment en 20 minutes, comme tu dis.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a finalement pas très grande variabilité de choses à faire, mais au moment où on les fait, ça peut changer complètement leur signification.
T'as vraiment des choix à chaque tour, quoi.
Alors, c'est très amusant parce que pendant un certain temps, on va réduire le nombre de choix, puisqu'on va bloquer des emplacements sans fermer de campagne.
Dès que tu vas fermer,
mais
tu
à
vas
certains
rouvrir.
Moments, voilà, la personne qui va clôturer une campagne a un avantage parce qu'elle peut gagner des points de victoire. Mais elle donne un avantage à son adversaire parce que, elle va ouvrir 4 ou 5 nouveaux emplacements avec des nouvelles actions qui n'étaient pas disponibles jusque-là. Donc, c'est cool de gagner des points de victoire. C'est pas cool de laisser des bombardements ou de l'industrialisation à son adversaire. Donc, il y a des effets de seuil comme ça qui font qu'on a des décisions super importantes à prendre tout le temps et on s'arrête pas. Et on doit prendre des risques et on doit accepter de perdre à certains endroits. Et en plus, le jeu te coince en te disant, surtout, t'es obligé d'aller chercher et de contester la suprématie à l'adversaire un peu partout. Ouais. Parce que s'il y a un endroit où il gagne vraiment l'ascendant sur toi, en fait, il est très certain de gagner la partie.
Ouais. Ça fait penser à des jeux du style Twilight Struggle ou 1960 où tu sais il y a des endroits que tu veux laisser tomber. On sent qu'il y a un système de majorité quelque part. Oui, bah ça revient à ça, c'est un tir à la corde, mais bon, ça revient à un système de majorité parce qu'au final le tir à la corde il est là pour des questions d'ergonomie pour simplifier le décompte.
Oui.
T'as juste en gros un plus un, moins un, plus deux, moins deux, ce genre de choses, quoi. Au final, ça revient à la même chose, que tu t'empiles des forces, donc c'est de la majorité, au final. Et avec un théâtre de guerre, donc en 1960, c'est un truc d'élection, mais bon, au final, il est hyper proche de Twilight Struggle, hein, c'est les mêmes auteurs et tout, enfin, c'est vraiment... Il y a des choses vraiment très très similaires. Mais là, on est sur du card-driven, alors que là, du coup, c'est... Tu vois, c'est presque un côté back-building, t'as ton sac au départ, et... Tu peux en ajouter beaucoup, non? T'ajoutes pas beaucoup de tuiles, en fait, dedans.
Non, tu vas pouvoir en ajouter 4 ou 5
ouais,
dans toute
pas,
la partie au maximum.
Ça,
mais c'est ces petites améliorations qui font qu'on va pouvoir gagner un avantage tactique au bon moment. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à Twilight Struggle, donc il y avait aussi ce jeu de tir à la corde, mais là sur, je sais plus, 30 ou 35 pays
ouais,
en
ça.
Tout.
Je sais pas combien, mais ouais, c'est dans l'ordre de grandeur, c'est ça.
Et 1960, ça doit être sur les 50
bah,
États
c'est
des
ça,
États-Unis.
C'est des Américains. Alors bon, il y en a quelques-uns sur lesquels tu vas jamais, quoi, mais ils sont là, quoi. C'est ça.
L'Ohio, on s'en fiche. Alors effectivement, oui, ça ressemble beaucoup, en tout cas, à cette tension-là, où c'est vraiment un jeu de confrontation directe. On est deux, il y en a un qui gagne et pas l'autre. Comme Kennedy contre Nixon et comme le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est. D'ailleurs, cette année est sorti en anglais, il n'est pas encore prévu d'être localisé en français, un jeu qui s'appelle Watergate, qui reprend les expériences de Twilight Struggle et de 1960.
D'accord.
Et qui le fait aussi en une trentaine de minutes,
okay.
Toujours pour deux joueurs. Et sinon, voilà, on a un jeu qui est très très tendu, un peu comme Kauna ou comme Coloretto, ce genre de jeux qui ont pu être un peu décrits quand ils sont sortis comme des combats au couteau dans une cabine téléphonique.
J'avais jamais entendu cette description, mais ok.
Voilà, on est armé, on peut faire mal à l'autre, mais on va s'en prendre aussi, on peut pas esquiver, non, on peut pas.
C'est souvent quand même la propriété des jeux à deux, je trouve, hein. C'est d'avoir un côté assez étriqué, tu vois. Effectivement, d'accord, j'aime bien l'image de la cabine téléphonique, parce qu'effectivement, moi je trouve souvent ces jeux-là étriqués, et effectivement l'image de la cabine téléphonique elle marche vachement bien pour ceux qui se rappellent les cabines téléphoniques.
Ah oui, c'est vrai. Tout le monde n'est pas aussi vieux que moi dans l'auditoire.
C'est ça. Désolé, je balance. Mais j'ai l'impression, enfin, j'aime bien les jeux à deux quand il y a ce côté étriqué, mais que t'as quand même du choix. Tu vois, il faut que t'aies quand même du choix. Ok, tu sois étriqué, mais que ce soit pas juste du simple tir à la corde. Parce que justement, quand j'avais regardé la vidéo, c'est un monde de jeux qui a fait une vidéo dessus.
Oui. Mais ne la regardez pas trop parce qu'ils font des erreurs. C'est triste.
Ouais, bon après ça. Mais en fait, je l'avais regardé un peu par-dessus la jambe et du coup, j'avais pas trop compris les subtilités du truc. Je me disais, putain, mais c'est un bête tir à la corde. Ça me paraissait pas intéressant, mais effectivement après j'ai re-regardé le, parce que comme tu voulais en parler, je me dis attends, il y a quand même pas pareil un truc aussi naze que juste du tir à la corde où je mets plus un, je mets plus deux, puis hein, j'ai un petit bonus au bout machin. Mais effectivement après j'ai compris qu'il y avait en tout cas j'ai compris le troisième niveau que t'avais donné là dans les intérêts que t'as cités du jeu, hein, déjà le côté où effectivement quand tu vas fermer une campagne tu vas rouvrir derrière plein de trucs l'autre joueur, donc du coup tu vas lui laisser plein d'opportunités, donc effectivement tu vas avoir un avant, enfin logiquement quand tu fermes la campagne c'est qu'il y a des chances que tu gagnes des points dessus. Oui. on va dire qu'en général tu le fais souvent pour ça, j'imagine, ou alors c'est vraiment parce que tu peux plus jouer, du coup je comprends que tu peux te retrouver à plus pouvoir jouer, tu peux pas passer, donc voilà. Mais effectivement oui, derrière tu rouvres du terrain, donc il y a vraiment des dilemmes et du choix dans le jeu.
C'est ça. Et puis donc dans les... Chaque joueur commence donc avec 22 tuiles. On a 22 tuiles dans son sac. On commence à en piocher 3. Elles sont toutes bêtes et normales. Elles font entre 1 et 3. Il y a juste une tuile. C'est un avion qui vaut 0, mais qui fait du blitz. Ouais. Et quand on joue une tuile blitz, c'est la seule exception. On a le droit de rejouer une tuile tout de suite dans le même théâtre d'opération. Donc du coup, on peut, sur une campagne où il n'y a que une unité pour l'instant et qu'il y a 3 emplacements, on pourrait tout finir d'un coup. Ou on peut finir une campagne à 0, quitte à sacrifier les points de victoire, et tout de suite bénéficier des 3 ou 4 nouvelles options qui s'ouvrent.
D'accord.
Alors on peut se dire, bon, c'est 1 sur 22, c'est pas très grave. Ouais, mais dans les tuiles recherche, là, les améliorations, vous inquiétez pas, il y a aussi des nouvelles tuiles blitz qui permettent du coup de jouer au lieu de 2, peut-être 3 tuiles d'un coup.
Il faut avoir ce qu'il faut dans ta main aussi. Là. Mais bon.
Voilà, je vous rappelle qu'on ne pioche qu'une seule tuile à la fin de son tour.
Ah,
donc
ouais,
c'est aussi une petite... on joue sur l'attrition, c'est-à-dire qu'on peut investir énormément de ses ressources en un seul tour, mais ça va pas améliorer la production de son complexe militaro-industriel derrière.
Ouais.
Donc on peut se fermer ensuite des capacités, donc il faut être bien bien sûr de ce qu'on fait.
Ok.
Donc ça rajoute à la tension et aux questions qu'on va se poser et à comment on va prendre ces décisions-là.
Et est-ce que tu as réussi à trouver des liens avec d'autres jeux de Paolo Mori? Parce qu'on citait Augustus, Pandémie Rome, je sais pas, j'y ai pas joué en fait, mais je sais même pas quelle est la spécificité de celui-là, de Pandémie. Je sais qu'il y a des histoires d'armées.
Alors
mais...
c'est pas des maladies, c'est des barbares.
Ouais, c'est ça, tu combats des barbares. et Libertalia...
Bon, Libertalia, c'est un jeu de pouvoir à la Citadelle, mais à Citadelle pour les adultes. Donc il y a plus de pouvoir et c'est plus compliqué.
Alors pour le coup, Libertalia, on pourra le rapprocher un peu d'Oriflamme, mais c'est,
d'accord.
Bon, coïncidence pour le coup, mais voilà. Mais alors, c'est vrai que Augustus, il y a ce côté plutôt dans le matériel et dans la presque dans la gestuelle du jeu. Toi, il y a quelque chose où bah tu vas piocher des jetons. Bon, dans Augustus, c'est quelqu'un qui les pioche pour tout le monde, et tu remplis, tu sais, tes objectifs façon bingo. Et là, tu vas remplir ta grille, mais en commun, toi. Il y a un petit quelque chose, mais bon, faut vraiment être un peu tordu d'esprit comme moi pour peut-être y trouver un lien, quoi. Mais bon. Je sais pas.
Non,
c'est le seul truc.
Paolo Mori indiquait que, Donc lui, c'est un vrai joueur de jeux de société depuis longtemps, mais que en fait, il est fasciné par les wargames.
Ouais.
Il déplore de pas avoir pu plus y jouer par faute de temps et de partenaires.
D'accord.
Et que en fait, c'est à l'occasion d'un concours organisé entre les utilisateurs du site BGG qu'il a commencé à essayer de faire une version très abstraite d'un conflit.
Mmh. Bah là, on est vraiment dans la partie macro du conflit, hein, parce qu'on a une échelle.
Complètement. Ouais.
Une échelle.
Et donc après, c'est vraiment un projet qui a continué à tourner comme ça, un peu tout seul dans son coin. Il mentionne pas vraiment que ça a pu être un jeu qui s'inscrit dans ce qu'il fait d'habitude ou dans ce qu'il a envie de faire d'habitude. Mmh. C'était l'opportunité d'essayer de creuser un sillon. Il l'a fait publier dans une revue italienne.
D'accord.
Un peu comme si ça avait été publié dans Vae Victis ou Plateau en francophonie, avant de le proposer à l'éditeur PSC. Mmh. Mais quelque part, c'est vraiment une démarche de quelqu'un qui fait des jeux de société et qui veut aller dans la confrontation directe, le un contre un et on s'en sort pas, plus que une œuvre qui aurait beaucoup de points communs avec ce qu'il a déjà fait.
Mmh, ok.
Donc justement, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant parce que on sent quand même une influence des wargames et de la partie historique des wargames. Parce que dans Blitzkrieg, par exemple, c'est toujours le joueur de l'axe qui commence.
Ouais.
Parce que effectivement, c'est lui qui a provoqué ce conflit-là. Mmh. Et que du coup, pour compenser, si c'est le joueur de l'axe qui arrive le premier à 25 points de victoire, le joueur allié a un tour de plus. Et en cas d'égalité, par contre, c'est le joueur allié qui gagne.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qui est très commun dans les jeux de wargame, où on assume une part d'asymétrie qui est censée reprendre certains éléments historiques, aux joueurs ensuite de voir comment ils arrivent à aller plus loin que ces carcans historiques. Mmh.
Ben c'est marrant d'ailleurs parce que oui justement souvent les jeux sur la Seconde Guerre mondiale sont asymétriques. Celui-là il l'est pas. Enfin il l'est pas au départ en tout cas.
Il est très très peu. Mmh. Ouais.
Oui enfin.
Et ouais. C'est vraiment les premiers coups qui vont générer de l'asymétrie. Est-ce que le joueur de l'axe sa première action c'est de récupérer de l'industrie en Europe orientale ou de bombarder son adversaire en Europe occidentale? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que malgré le fait que c'est vraiment très abstrait, et c'est une vue de très très haut du conflit, ça génère quand même un niveau de fiction.
Mmh. T'arrives toujours à raccrocher potentiellement quelque chose, quoi.
Voilà, ça ressemble quand même à certaines choses. Quand le joueur de l'axe, dans son premier mouvement, il va en Europe orientale et il prend une zone de production, ça ressemble quand même beaucoup à l'invasion de la Pologne et de la Bulgarie. Quand le joueur allié, son premier mouvement, c'est de récupérer de l'industrie dans une case de flotte en Europe occidentale, ça ressemble beaucoup à la flotte britannique qui va en mer du Nord et qui commence à instaurer un blocus face à son adversaire.
Ouais, sauf que si tu le fais à l'envers,
donc
ça marche
peut...
pas bien, mais bon.
Bah, c'est une réécriture.
C'est ça, ouais.
Mais on peut le réinterpréter. Ouais, ouais. Voilà. Une bombe atomique peut tomber ailleurs que dans le Pacifique. Elle pourra tomber en Europe occidentale et on pourra l'interpréter soit comme un bombardement de Londres ou de Berlin pour gagner un avantage stratégique.
De toute façon, celui qui joue l'axe, il sait très bien qu'il ne faut pas faire les actions qu'a fait l'axe parce qu'il va perdre à la fin. Pas con.
Ah, c'est sûr que quand on attaque la Russie, il y a très très peu de cases de flotte, il y a que du marron, c'est très très long pour avoir des points de victoire, ça donne pas envie du tout. Hein. Mais alors, d'une certaine manière, le pari est tenu, parce qu'effectivement, en 20 minutes, on fait le tour du conflit, on est obligé d'intervenir partout sur le globe, on sent bien qu'il y a des interactions aussi, parce que certaines cases, quand on les prend, améliore le rapport de force dans un autre théâtre d'opération.
Ouais.
Donc par exemple, il y a certaines cases comme ça qui ressemblent beaucoup à aller récupérer le canal de Suez parce que ça donne plus 3 de rapport de force dans un autre théâtre d'opération. Donc il y a une interconnexion entre ces différents théâtres d'opération. Mais sinon, effectivement, c'est très très abstrait. Donc on n'a pas tous les détails. Hein, c'est pas des jeux comme Campaign for North Africa, où il y avait des règles spéciales qui faisaient que les troupes italiennes consommaient plus d'eau que les autres pour faire cuire leurs pâtes. On n'est vraiment pas dans ce niveau de simulation.
Du coup, ça doit faire hurler un peu les puristes des jeux simulationnistes de la Seconde Guerre mondiale, quoi.
Ah, c'est sûr. Je pense que déjà qu'ils ont beaucoup de mal à accepter que Mémoire 44, par certaines personnes, soit décrit comme un wargame. Là, si on vient en leur disant « Ouais, j'en ai un autre, vous allez rigoler !» Là, c'est, on risque gros.
On a de la chance, ils nous écoutent pas. Chance ou pas, je ne sais pas.
On retrouve d'ailleurs les codes du wargame. On a des illustrations qui sont, c'est pas des dessins comiques, c'est pas des caricatures, hein, c'est vraiment des représentations qui se veulent assez représentatives, des chars Sherman ou des chars Tiger pour l'axe. On a des belles représentations d'avions Spitfire ou de Focke-Wulf 190. Donc on est vraiment soit dans l'hommage au wargame, soit on essaye de s'y rapprocher aussi par la représentation graphique. On a ces petits jetons carrés comme les cheats des wargames avec le dessin de l'unité, sa valeur, sa force dessus.
On peut dire, ça on ressemble beaucoup. Veut, mais enfin, pour moi, c'est complètement dans le type de ce qu'on appelle les Warto. C'est-à-dire que c'est des jeux type wargame qui viennent rencontrer le jeu de société, enfin le jeu de plateau, comme on dit, voilà, pour distinguer un peu les deux. Mais c'est complètement ça, quoi. C'est pas du wargame pur parce que c'est pas de l'affrontement où tu vas t'affronter case par case, voilà. Mais c'est un Warto, quoi, comme Quartermaster Heroes machin là.
Heroes of Normandy.
C'est pas celui-là auquel je pensais, mais aussi. Voilà, quoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi un peu la question que je me pose parce que donc le jeu est vraiment donne des très très bonnes sensations dans ce qui est la confrontation, la tension, une certaine attrition, ouais. Un besoin de planification. Par contre, le thème Deuxième Guerre mondiale, ça peut repousser pas mal de gens.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu la vraie question.
C'est pas adapté à tout le monde, quoi.
est-ce que ça a été une bonne idée? Alors, on comprend que Paolo Mori, lui, il voulait justement parler de Wargame.
Ouais.
Que PSC, eux, ils font ça et c'est ce en quoi ils croient.
Je pense qu'ils se sont pas posé la question. Hein.
C'est probablement ça. Alors qu'on pourrait se dire, allez, on fait un petit rhabillage Game of Thrones. C'est Daenerys contre Cersei. <Au hasard. rire> ça va attirer plus de monde.
ouais. Bon après, il faudra adapter un peu tout, mais c'est sûrement faisable. Ouais.
T'enlèves les bombes nucléaires et tu mets des dragons.
Un peu plus de dragons que dans le voilà. que dans la série, quoi. Mais ouais.
En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Je suis pas sûr que tout le monde fera le pas de se relancer dans des trucs kaki et gris qui se tirent dessus. Même si, de fait, il n'y a pas de vrai conflit. On cherche pas à casser les tuiles des adversaires. Une fois qu'elles sont sur le plateau, elles bougent plus. Mais voilà, est-ce qu'une autre franchise aurait pas pu permettre à ce jeu-là d'exploser sur la scène internationale? C'est une question qu'on peut se poser. Peut-être que comme Love Letter, il y aura d'autres implémentations dans le futur qui lui permettront d'avoir ce rayonnement-là.
Pourquoi pas, ça peut arriver, hein. Si effectivement un éditeur trouve que le truc est vraiment bien et a envie de le reprendre, se met en contact avec PSC et dit ouais, nous on va en faire un truc sur notre licence, blablabla, pourquoi pas, hein. Ou Paolo Mori directement refaire un jeu dans le même style mais sur un autre univers. Ça pourrait arriver, ouais.
Quelques derniers éléments. Alors dans la boîte, il y a une version solo qui a été rajoutée. Alors sur la boîte, c'est écrit gratuitement. Alors je sais pas ce que ça veut dire quand on me donne un truc gratuit comme ça. Je sais pas. Bon, c'est pas grandiose.
Gaffe, hein.
Bon, c'est pas grandiose. C'est donc cette variante solo, c'est juste en fait un arbre décisionnel qui permet de simuler un joueur humain.
D'accord.
Qui part avec un petit avantage et puis on tire quelques tuiles pour remettre en cause l'ordre des priorités dans cet arbre décisionnel, donc pour donner un petit peu d'imprévu.
Un peu d'aléa quand même. Ouais, voilà, parce que sinon, si tu t'appelles Rayman, tu gagnes, quoi.
Oui, tout à fait. On peut complètement prévoir ce qui va se passer, donc c'est un peu... Dans l'ensemble, c'est pas très satisfaisant. Après, ça fait partie de cette d'habitude là qu'il y a en ce moment de régulièrement essayer de promouvoir une version solo. Il y a même des studios de développement qui proposent de faire ça
ah
en
ouais.
plus.
Mmh, ouais. Du coup, tu l'as essayé toi la version solo ?
Oui. Ouais. Et j'ai pas trouvé ça aussi
ouais,
engageant
d'accord.
que quand on est deux. En plus, quand on connaît l'autre. Qu'on se fait des petits sourires au moment où on pose la tuile et on se dit ouais, est-ce qu'il a j'espère qu'il a pas vu que je lui libérais ça. Clairement c'était je suis vraiment pas convaincu par cette
Mais c'est incroyable hein. Aujourd'hui c'est vraiment est-ce qu'il y a une version solo c'est devenu le nouveau est-ce qu'on peut y jouer à deux. Non, je trouve pas. Pendant
ouais.
longtemps, les gens ils voulaient, enfin pendant longtemps, aujourd'hui encore, je veux dire, les gens ils demandent si on peut jouer à deux parce que c'est vrai que deux gens en couple, c'est s'il y a le plus de chances d'être répandu, on va dire. Et surtout depuis Kickstarter, j'ai l'impression qu'il y a un lien. Je sais pas vraiment comment, mais je trouve que c'est concomitant avec le Kickstarter qui s'est mis peut-être le premier à proposer aussi à répondre à la demande, tu vois. Mais maintenant, ouais, il faut des versions solo dans tous les jeux, quoi. Les gens demandent est-ce qu'il y a une version solo.
Parce qu'ils dépensent tellement dans les Kickstarter, ils peuvent plus acheter de tickets de bus pour aller voir des amis ou aller au club de jeu.
Et peut-être.
C'est terrible. L'isolement est une des conséquences des Kickstarter.
C'est, ça, ouais. C'est horrible. Non, je sais pas, voilà. Si vous avez des théories, hein, allez-y. Hein,
allez-y dans les commentaires, surtout.
Ouais. C'était la digression, pardon.
Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, si, l'illustration de couverture, elle ressemble beaucoup à une illustration un peu BD, années 60.
Ah, style BD?
C'est pas très très beau. style BD, style comics. Un peu réaliste comme ça, avec un soldat américain qui a des grenades et un casque M1. Bon,
ouais.
C'est... Je sors pas le jeu pour ses qualités de ouais, présentation et d'illustration. Ouais. Bon, faut le signaler, faut passer le pas de cette couverture. C'est un petit peu dommage, c'est pas top, quoi.
Ouais.
Voilà, donc c'était un peu... Bon, autre point un peu négatif qu'il faut mettre en avant, donc c'est un thème très militaire, c'est vraiment un jeu de confrontation directe, c'est un conflit entre les deux joueurs, c'est pas qui est-ce qui va mieux s'en sortir, hein, c'est... Qui est-ce qui peut pousser l'autre dans le ravin et vraiment... tirer au mieux les bénéfices d'une opportunité ou d'une bonne planification qui permet de se mettre en bonne position. On peut pas se permettre de passer un tour et de faire quelque chose de pas trop top parce que là c'est l'autre qui va en profiter pour vous pousser dans le ravin. Bon, ça, c'est aussi vrai dans ce jeu-là, c'est pas pour tous les publics. Bon, c'est facile de le dire parce que aucun jeu n'est pour tous les publics, mais il faut le savoir, c'est un jeu assez abstrait et surtout c'est un jeu de conflit direct.
Qu'est-ce que tu penses de la part de hasard dans le jeu ?
Alors, elle est pas très très grande, elle existe, c'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'on va tirer dans son sac, parce qu'au début, de toute façon, tout est quasiment pareil. Mmh. On peut faire un début de partie avec que des flottes, par exemple, donc ça va vraiment contraindre ses premiers coups. Après, ouais. Les emplacements sont assez bien pensés pour faire qu'au début, on n'est pas vraiment coincé. C'est juste que ça va orienter dans un sens. C'est vrai que ça peut être rageant de mettre 3 jetons recherche avec des armes améliorées dans son sac et de pas les tirer avant la fin de la partie et donc perdre.
C'est sûr.
Mais quelque part, c'est d'une certaine manière réaliste. On peut avoir mis tous les avantages de son côté et quand même jouer de malchance et perdre.
Il y a un grain de sable ouais, qui vient se mettre dans la mécanique. Ouais.
Voilà, comme dans la réalité. Comme il y a les pions des forces aériennes améliorées, c'est des Messerschmitt 263, donc c'était les premiers avions à réaction utilisés en situation de combat. Ils sont arrivés beaucoup trop tard. C'est tant pis, hein, fallait les tirer dans le sac plus tôt. Hein.
Et je trouve quand même que c'est moins acceptable à ce niveau, à cette échelle en fait. C'est-à-dire que plus l'échelle est macroscopique et plus quelque part les problématiques doivent se lisser, tu vois, les problèmes rencontrés doivent se lisser. Donc à mon sens, Plus le jeu est comme ça, enfin je parle de jeu sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Je peux comprendre qu'il y a un fort hasard sur un jeu d'affrontement à deux où t'es où t'as tes armées qui s'affrontent, où t'as même carrément des unités, on va dire un char, une unité d'infanterie, machin qui vont s'affronter et tu peux te dire bah voilà le char il va s'enrayer, la mitrailleuse d'un de tes gugus va s'enrayer, je sais pas quoi, que à une échelle macro où quelque part toi les petits problèmes comme ça ils sont censés se lisser. Thématiquement, je trouve que à cette échelle-là, tu dois trouver moins de hasard. Pour le coup, tu me diras même dans des jeux comme Twilight Struggle, après, t'as le hasard de la pioche, mais bon, je sais pas. Ouais.
Oui, c'est quand même assez présent, et je pense que c'est aussi assumé dans le sens où les parties font 20 minutes.
Oui, c'est ça.
Et
ouais.
Quelque part, pas de chance. Bon, on rejoue la partie. Voilà, dans une heure, on fait trois parties et effectivement, il peut y avoir une partie complètement pourrie parce que le tirage initial se met mal. Et c'est pas grave, on aura essayé quand même et vu quelque chose, éventuellement tester un début de stratégie différent. Alors, ce qui est intéressant, ce qui va du coup ressembler un peu au go ou aux échecs, c'est qu'au bout d'un moment, on développe des ouvertures comme aux échecs.
Ouais.
Où il y a effectivement des emplacements qu'on joue un peu plus fréquemment au début en se disant je commence ça et mon adversaire fait ci. Donc comme ça il peut y avoir des débuts de réflexes d'ouverture qui se mettent en place sur les 4-5 premières actions. C'est très intéressant.
Intuitivement, tu vois, sur les actions que tu me décris, je me dirais que au début, j'ai tout intérêt à faire soit à faire en sorte que j'ai plus de tuiles dès le départ pour avoir tout de suite plus de choix, ou descendre le nombre de tuiles de l'adversaire. Donc soit le bombarder, soit renforcer, je sais plus comment c'est là.
Oui, industrialiser.
Ouais. Un peu intuitivement ce que j'aurais envie de faire, quoi.
Ouais.
OK, ouais.
Bon, j'arrive un peu au bout de tout ce que je voulais dire.
Ouais. Il y a déjà des extensions, parce que c'est un Kickstarter, ça, non?
Alors, c'était un petit Kickstarter, oui, mais c'est pas plein de figurines de plastique, comme vous l'avez entendu. Il y avait une mini extension qui a été rajoutée alors c'est une extension, uchronique, où en fait, les pays de l'Axe ont remporté la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, d'accord, c'est déjà le bordel, quoi.
Voilà. Les États-Unis ont été envahis par l'Allemagne, et le Japon essaye d'envahir les États-Unis envahis par l'Allemagne. Alors on se dit, les Japonais, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils sont accompagnés par Godzilla.
Ah bah oui,
voilà.
Logique. Ouais. Ok, d'accord. Bon, il a compris qu'il fallait aller sur un autre... Bon, pas tout à fait sur notre thème, mais voilà. Mais tu l'as, celle-là?
Non, je l'ai pas.
Non. Du coup, je sais plus, on l'a dit, mais le jeu, il est dispo qu'en anglais. On l'a dit ou pas? Je sais plus.
Le jeu, il est dispo qu'en anglais, et donc là, j'ai pas eu de confirmation, mais une localisation en français serait en préparation pour l'année prochaine.
Bien. Tu sais chez qui ou pas?
Non, je ne sais pas chez qui. Voilà, c'est un jeu très épuré, c'est un jeu de conflit, c'est vraiment très très fort d'arriver à générer autant de tensions autour des décisions qui sont prises par les joueurs avec si peu de choses. Ça génère quand même de la fiction, il y a suffisamment d'effets spéciaux des emplacements et de tuiles avancées, recherches pour simuler plein de choses finalement, en très très peu de matériel. C'est vraiment une très très belle réussite, hein. Dans la catégorie des jeux comme ça, à deux en 20 minutes, c'est vraiment un jeu comme il en apparaît rarement. Mmh. On dit toujours qu'il y a 800, 1000 jeux nouveaux qui sont publiés chaque année. Des jeux avec cette qualité-là, qui ont réussi à enlever tout ce qui était en trop, c'est vraiment très rare et extrêmement appréciable.
Ok. Est-ce que tu avais eu l'occasion d'essayer Iron Curtains ou comment ça s'appelle ? Chez Matago, il y a eu deux jeux à deux qui sont sortis. Il y en a un, il y a jour dans le titre et l'autre il y a minute. C'est des trucs qui sont adaptés de Twilight Struggle. Tu as pas joué ni à l'un ni à l'autre, de toute façon.
Non, ça me dit rien. C'était pas 10 minutes to midnight, un truc comme ça ?
Non, c'est pas ça. Ah, 13 jours et 13 minutes. C'est un Twilight Struggle en moins d'une heure, je crois. C'est sur la crise de Cuba, je crois, les deux.
Ah, non, ça ne dit rien. Non. Alors, Blitzkrieg, c'est un jeu de Paolo Mori, édité par PSC, pas encore localisé en francophonie. C'est illustré par Alan D'Amico et Paul Sizer. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 14 ans, et il faut bien compter 14 ans, pour des parties de 20 minutes, entre 15 et 25. C'est au prix de 30€ chez Philibert, et c'est disponible, en tout cas ça l'était il n'y a pas si longtemps, et ça l'est régulièrement.
Tu dis 14 ans et plus, il les faut, je pense que enfin mécaniquement et même stratégiquement, je suis pas sûr qu'il faille 14 ans. Hein.
Alors mécaniquement, c'est sûr. Par contre, pour avoir suffisamment de planification et d'accepter de perdre certains avantages pour gagner en initiative ailleurs, il faut quand même une bonne maturité, ouais.
Ouais. Bah après il y a le thème tout ça, mais enfin à mon avis 12 ans ça doit passer quand même. Hein. Je pense pas qu'il soit beaucoup plus complexe que tu vois certains jeux pour 12 ans en plus quoi. Après oui, bon il y a le thème, mais bon à mon avis ça doit enfin en tout cas mécaniquement ça doit passer. Après avoir par rapport au thème tout ça, voilà, c'est bon, faut quand même expliquer un peu pour qu'on se tape dessus à coup de bombes nucléaires et de bombes même tout court, hein, bon. Voilà, quoi. C'est le côté un peu délicat quoi. C'est sûr que si c'était Daenerys avec des dragons, bon, ça passerait un peu mieux, quoi.
Ça passerait plus facilement, ouais, c'est sûr.
Ou pas, je sais pas.
Ou Harry Potter contre Lord Voldemort.
Ouais, voilà, là, ça passe mieux. Là, on est d'accord. Bon, après, faut réussir à recoller, mais bon. Ok, eh ben écoute, on passe au Oriflamme, alors, ça te va ?
Allez, c'est super.
Oriflamme, c'est un jeu d'Adrien et Axel Essling, donc ce sont deux frères, c'est leur premier jeu. C'est un jeu qui a été édité par Studio H, c'est leur premier jeu.
Alors, H comme Essling donc ?
Eh ben non, c'est H comme Hachette, parce que c'est le nouvel éditeur qui est adossé à Hachette. Du coup c'est un jeu qui est distribué par Gigamic, parce que c'est chez Hachette, et que Hachette a racheté Gigamic. J'espère que vous suivez encore, là, je vais essayer de vous perdre encore un peu plus. La direction artistique et en fait l'ensemble du développement, et même un peu plus en fait, ont été assurés par Forge Next, qui est à la base, qui est un agent d'auteur.
Mm-hmm. Mais qui assure du développement maintenant aussi.
Alors, bah en fait, c'est des agents d'auteur, donc, ils signent un contrat avec des auteurs. Donc déjà à ce moment-là, ils vont potentiellement aider les auteurs à développer leur jeu. Et une fois qu'ils sont arrivés à un niveau qui leur convient, ils vont présenter les jeux à des éditeurs. Donc là après, soit l'éditeur dit oui, ok, ça nous va comme ça, soit l'éditeur dit bah ok, ça nous va, mais on va retravailler un peu le jeu avec l'auteur ou Forge Next. Ou il peut très bien dire l'éditeur. Enfin après voilà, c'est des arrangements entre eux. Hein, c'est une question de contrat et de sous. Là en l'occurrence, si j'ai bien compris, donc Studio H a demandé à Forge Next de retravailler un peu le jeu. Donc c'est Forge Next qui a typiquement été chercher l'illustrateur. L'illustrateur étant Thomas Jedrusek, qui est un illustrateur qui a œuvré pour divers jeux de société. Il a fait des illustrations pour Magic par exemple. Il travaille sur le excellent. JCE, je dis pas de bêtises, c'est le JCE de Game of Thrones, et sur d'autres JCE, voilà, il a fait des trucs dans l'univers du Seigneur des Anneaux, je sais plus quel jeu exactement, je suis désolé.
D'accord. Oui, ça fait partie de ces illustrateurs-là qui sont très recherchés, qui interviennent, comme Magali Villeneuve, sur tous ces jeux à collectionner.
Ouais, voilà, des jeux à licence forte et qui demandent beaucoup d'illustrations. On va dire. Ça doit être des gens qui doivent être assez productifs, en tout cas. J'imagine, du coup. En plus d'être talentueux, sans aucun doute. Voilà, donc un peu l'histoire de ce jeu. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs, qui ne propose pas de variante à 2, ni de variante solo.
Ni à 1. C'est bien, c'est l'originalité.
Ouais, c'est ça. Après, bon, je peux nous en faire une de variante solo, mais elle va être chiante. Hein. Ça se joue à partir de 10 ans, et pour des parties qui sont en dessous de 20 minutes, ils disent 20 minutes, mais bon, voilà, 20 minutes, c'est vraiment le maximum, c'est le maximum que j'ai rencontré. C'est en vente chez Philibert à 15€. Alors le principe du jeu, en fait, chaque joueur est à la tête d'une famille de nobles qui va, qui vont se disputer le trône qui a été laissé vacant. Il va donc...
On parle de nouveau de Game of Thrones.
Non, je pensais pas que t'allais le faire la remarque si vite quand même. Je me suis dit
si vite, un peu plus tard, mais... pardon. Voilà, vas-y, coupe au montage, la referai plus tard.
Il y a pas de souci, au contraire. Non, c'est vrai que le petit texte d'intro, alors j'avais prévu au moment de te le relire et toi en me disant ah, ça te parle ou pas, parce que j'avais un peu paraphrasé là, tu vois, pour le coup. Donc le texte d'intro du jeu, la petit texte d'ambiance, le roi est mort sans laisser de descendance. Alors, ça c'est moyennement vrai hein, dans Game of Thrones, mais on sait pas trop, enfin c'est un peu compliqué. Partout dans le royaume, les familles les plus influentes cherchent à prendre le pouvoir par le complot, la ruse et le sang. Vous êtes à la tête de l'une de ces familles. Voilà, on est là. Hein. Et donc le principe du jeu, ça va être de gagner de l'influence pour réussir à placer sa famille du coup à la tête du royaume.
Ok. Et comment est-ce qu'on fait ça ?
Alors c'est un jeu qui va se découper en 6 manches, chacune découpée elle-même en 2 phases. Et tu vas voir, ça va être assez simple. En fait, on a des cartes en main. On a tous 10 cartes en main qui sont les mêmes en début de partie. Et on va en écarter 3 dès le début, de façon aléatoire. Et pas forcément les mêmes. Donc en gros, chacun mélange son paquet et enlève 3 cartes. On peut tout à fait en prendre connaissance, puisque de toute façon, on va prendre connaissance des 7 cartes qui nous restent en main. Donc ensuite, on va commencer à jouer. La première phase étant de choisir une des cartes de sa main et de la poser face cachée sur une ligne qu'on va former au milieu de la table.
D'accord.
Donc moi je vais faire ça, le joueur à ma gauche va en faire autant, donc il va placer une de ses cartes à côté de la mienne, le joueur suivant va poser une de ses cartes sur une des extrémités de la ligne, en fait on peut jouer que sur les extrémités de la ligne, puisque là, ça va, c'est encore assez visuel je pense.
Ouais.
Une fois que tout le monde a posé une carte, on passe à la phase 2, où on va résoudre les effets, en commençant par le début de la file. Alors il y a un petit jeton pour indiquer le sens de la file.
D'accord.
C'est plutôt bien trouvé du coup, parce que c'est vrai que tu peux vite l'air de rien quand t'as des joueurs en face de la table,
oui, gauche oui. À droite. Si on est sur une table ronde, on sait pas où est le début.
Ouais, c'est ça. Et donc on va avoir à chaque fois que c'est un joueur de jouer, donc tu le vois au dos de la carte. Hein, sur le dos de la carte, tu vois la famille à laquelle elle appartient, mais tu sais évidemment pas quelle carte c'est.
D'accord.
Donc quand vient la carte d'un joueur. C'est à ce joueur de choisir s'il décide de garder cette carte face cachée, auquel cas il va ajouter un point d'influence sur la carte, donc il va pouvoir gagner éventuellement plus tard, il va accumuler comme ça éventuellement des points, ou alors il va pouvoir révéler la carte pour faire son effet. S'il la révèle, il récupère les points d'influence qui pouvaient être dessus, qui vont plus être placés sur les tours d'avant, et donc il applique l'effet. Et en fait, tout simplement, les 10 cartes ont 10 effets différents, qui sont donc tous les mêmes pour les différents joueurs, mais en fonction de ce que tu joues. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. À partir du deuxième tour, on va refaire la même chose. Donc on tourne le premier joueur.
Et on laisse les cartes au milieu ?
Voilà, les cartes qui sont encore en place, parce que ça peut... on a dit par le sang. Hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait des cartes qui soient plus là.
D'accord.
Donc les cartes qui sont encore là restent en place et donc en commençant par le premier joueur, il va placer une nouvelle carte face cachée à l'avant ou à l'arrière de la file.
D'accord, on fait pas plusieurs files, c'est la même file.
Non, c'est la
qui
même
est modifiée,
file.
Modifiée phase, enfin oui phase après phase.
Ouais, c'est ça. Enfin okay. Manche après manche. Ouais. Petite subtilité quand même, ça va être la deuxième manche. Sa carte, on peut la poser par-dessus une de nos propres cartes, uniquement nos propres cartes. Dans ce cas-là, en fait, on va recouvrir l'effet de la carte qui était en dessous. Mais ça nous permet de nous intercaler dans la file.
Oui.
Voilà. Là, j'ai juste expliqué les règles. Alors avec ça, on se rend pas forcément compte de l'intérêt, de la subtilité du jeu. Mais en fait, tout ensuite est dans les cartes, dans les
dans
effets
les
des
effets,
cartes.
Les effets, d'accord. Parce qu'il va y avoir des effets qui enlèvent des cartes ou qui... Si je suis à droite de X et à gauche de Y, alors je fais ça.
Alors, il n'y a pas de notion comme ça. C'est des effets plus simples, on va dire. Je peux en faire quelques-uns. Typiquement, il y a les personnages qui vont avoir un effet néfaste sur les adversaires. T'as l'archer ou le soldat. Le soldat, lui, va éliminer une carte qui est adjacente.
Oui.
Et auquel cas, tu vas gagner un point. Et l'archer, lui, va éliminer une carte qui est soit la première, soit la dernière de la file.
D'accord.
Donc, et pareil, quand tu élimines des cartes, comme ça, tu gagnes des points.
Bien sûr. Par le sang.
Par le sang. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait par le complot, la ruse ou le sang.
Ouais.
Bon, celle-là, elle va pas rentrer ni dans l'un ni dans l'autre, à mon avis, mais bon. T'as l'héritier, en fait. Hein, simplement, c'est l'héritier, donc voilà. Il est plutôt bien placé. Mais en fait, lui, s'il est le seul héritier sur la table, le seul héritier visible, c'est logique, hein, il faut qu'il y en ait qu'un, tu vas gagner 2 points d'influence.
Voilà. D'accord.
Bref, t'as tout un ensemble d'effets comme ça. Et... Alors, t'as deux effets en particulier qui sont importants parce qu'ils vont ajouter une petite dimension de guessing dans le jeu. Enfin, en particulier ces deux-là. Les autres aussi un peu, mais beaucoup moins, je trouve. En fait, t'as une carte qui s'appelle l'embuscade. En gros, celle-ci, si elle est éliminée, ben, en fait, ça va être bénéfique parce que tu vas gagner 4 points. et en plus, l'autre, il va perdre sa carte qui t'a éliminé. Voilà.
D'accord.
En revanche, il a pas, lui, t'as pas un intérêt à le garder. En fait, le truc, c'est que, typiquement, l'embuscade, en fait, elle va rester cachée pendant aussi le plus longtemps
donc
que tu
on
peux.
On sait que c'est l'embuscade. Sauf que, en fait, t'as mis autre chose.
Ben, sauf qu'il y a aussi le complot. Il y a une autre carte qui s'appelle le complot. Et qui, elle, gagne le double des points qui sont sur elle quand tu la révèles. Donc, elle aussi, tu vas la laisser cacher, tu vois.
Oui.
Et du coup, il faut essayer de deviner si c'est plutôt le complot, si c'est plutôt l'embuscade. Si c'est le complot, t'as intérêt à le buter vite. Si c'est l'embuscade, t'as pas vraiment intérêt à le buter vite. Tu t'en fous, quoi. Tu peux soit pas le buter du tout, soit si tu le butes à la fin, les points qui ont été accumulés dessus, en fait, vont être perdus de toute façon.
Ah oui. Donc, c'est suffisamment large comme effet pour qu'il y ait pas vrai, enfin qu'il y ait encore une bonne dimension de bluff et d'incertitude sur ce qui se passe et sur la nature des cartes qui sont.
Ouais. Alors c'est okay. tu fais pas des gros bluffs dans le jeu. Hein. Franchement, tu vas pas faire des gros bluffs. Il y a que sur ces deux cartes-là que tu vas tenter de bluffer. Et...
Bah 2 sur 7, c'est déjà pas mal.
Bah 2 sur 7 si tu les as dans ta main, mais il y en a, c'est 2 sur 10 en fait. Il y a 10 effets différents. Mais n'empêche que ça, tu vois, c'est plein de petites choses qui sont distillées dans le jeu par les effets de ces cartes. Qui vont donner vraiment la richesse du jeu. Un peu comme des jeux comme Love Letter ou Lost Legacy, qui sont les jeux de Seiji Kanai, où voilà, la richesse aussi est dans les cartes à jouer. Alors évidemment, on n'est pas dans le même type de jeu, mais on est dans ce principe de la carte à effet qui va donner toute la dimension au jeu. Sur une base de règles très simple, c'est vraiment les effets, dans ces jeux-là, c'est vraiment les effets des cartes qui font tout le jeu.
D'accord. Et je vois bien qu'on est sur le point de reparler de Libertalia du même Paolo Mori, du coup, puisque...
Voilà, effectivement, on peut faire un lien avec Libertalia aussi, parce que... Alors, il y a même un double lien dans Libertalia, parce que t'as même un triple, on peut dire. T'as des cartes à effet.
Ouais.
Tu as... tous les joueurs ont les mêmes cartes.
Mais tu les joues pas toutes.
Et, on va dire même quatre, du coup, si on veut aller jusque-là. Et en plus, il y a une notion de tempo.
Ouais.
Dans Riflam, il est imposé par la ligne que tu vas former. Mmh, du coup, en fonction de là où tu vas placer ta carte, elle va avoir un effet qui va être plus ou moins intéressant, selon qu'elle soit adjacente à un truc ou un autre. T'as une autre carte qui s'appelle le Seigneur. Lui, il va marquer des points si t'as des cartes à toi qui lui sont adjacentes. Tu vois, donc t'as une nécessité de proximité comme ça.
Vraiment de la positionnement.
Typiquement, il y a l'assassin aussi. Lui, il bute une carte n'importe où dans la file. En revanche, il s'en va après. Il marche qu'une fois. Bon, t'as intérêt à l'avoir placé dans le début de la file, quoi, pour avoir, entre guillemets, du choix, parce que sinon, tu vas assassiner une carte qui a déjà joué, ça a moins d'intérêt, quoi. Dans Libertalia, t'as des cartes qui vont jouer, je sais plus, c'est une notion de matin, non, de matin et de soir, je sais plus, un truc comme ça.
Oui, c'est
hein.
ça, et puis, certaines jouaient forcément très tôt dans le dépilement des effets, et d'autres beaucoup plus tardivement. Mmh. Et souvent, celles qui étaient les plus tardives, c'était celles qui rapportaient le plus.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc là, en fait, on a une version qui est concentrée, puisqu'on a que 10 effets, on a que 10 pouvoirs différents, avec une petite incertitude, parce qu'on va pouvoir en jouer chacun que 7, c'est ça?
Ouais, enfin, même que 6, en fait. Mm. Parce que tu en as 7 dans ta main, mais il y en a une que tu joueras pas à la fin.
Et oui, il y a que 6 manches qui ne sont pas des phases.
C'est ça, oui. T'as tout compris, voilà, c'est parfait. Voilà. J'ai rapproché aussi le jeu de Citadel. Pareil pour les effets des cartes, hein, c'est quasiment, enfin c'est pas le premier.
Pour l'assassin qui joue en premier.
Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Voilà. Avec un effet d'ordre, mais là l'ordre il est imposé dans Citadel par les effets des cartes. C'est là que c'est quand même différent. On est quand même pas dans le ressenti, on n'est pas dans le même style de jeu, hein. Mais c'est vrai que ça, le nom il vient à l'esprit malgré tout quand il joue. Riflam, j'arrive pas à définir encore exactement pourquoi. C'est vraiment juste le côté personnage à effet. Aussi un peu plus que ça, il aurait fait le gros jeu à Citadel peut-être pour voir pourquoi j'ai ce ressenti.
Oui, puis il y a le thème moyenâgeux.
C'est peut-être aussi ça, dans
cette tendance-là. Ouais. Donc les effets doivent être attachés à des types de personnages assez proches.
J'ai aussi senti une petite filiation avec Canardage. Je sais pas si. Alors pour le coup, c'est plutôt pour la file. avec toi tes personnages à... oui. Enfin là c'est des canards dans le canardage, donc t'as tes canards à sauver et les canards des autres à essayer de buter, alors pareil avec un mécanisme différent, mais là pour le côté fil où t'arrives à tirer ton épingle de jeu dans la file. C'est une espèce de petit mix entre effectivement du Love Letter, Citadel, Canardage et Libertalia, avec comme tu l'as dit assez concentré au final. Ça joue très vite, hein. En 15 minutes en général les parties elles sont faites, mais t'as de la réflexion quoi, t'as vraiment du choix, où est-ce que je vais placer ma carte, comment je peux m'en sortir pour essayer de faire en sorte de choper des points en même temps, voilà, virer l'héritier de l'autre, hein, tu vois, enfin, t'as toujours des configurations différentes et du coup des réflexions à mener qui sont toujours différentes.
C'est intéressant parce que pendant une période, il y avait pas mal de jeux qui sortaient avec ce mécanisme de fil là. Il y avait une histoire d'un ogre qui mangeait les différents personnages des joueurs.
Service compris,
voilà, avec la fameuse choucroute Melba. Et puis un autre où il y avait des... Ça c'était atroce, il y avait des nobles qui passaient à la guillotine.
Ah oui, bah c'est guillotine. Il s'appelle Guillotine,
voilà. Et pendant longtemps, on n'avait plus du tout cet effet de fil qui pourtant peut être assez riche en termes de positionnement. C'est simple, on comprend vite, mais le renouvellement des positions fait qu'on peut avoir quelque chose d'assez tactique.
En fait, ça crée vraiment comment dire. C'est le côté émergent du jeu, tu vois, qui est à la fois dans les effets des personnages et dans la disposition qu'ils vont avoir dans la fiche, qui crée un ensemble de combinaisons assez important qui donne sa richesse au jeu. Après, le truc aussi, c'est que vraiment les effets, ils ont été bien choisis. Tu vois, c'est des effets qui se répondent les uns les autres, qui sont vraiment propices au metagame. Typiquement, voilà, j'ai fait deux parties hier. Première partie, je mets l'embuscade en première carte. Évidemment, j'allais se cacher.
Bien sûr.
Je mets un jeton dessus, toi. Voilà, tac. Genre deux tours après, le tour d'après, on me la bute. Ah ouais, super. Cool, merci, tu m'as buté mon embuscade. et la partie d'après, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil, mais avec le complot. Je joue première carte. Complot. Et du coup, c'est l'inverse. Et là, on l'a pas buté, tu vois. C'est assez drôle, tu vois. Tu te dis, là, t'as joué complètement sur le metagame. Parce que tu te dis, il va me faire deux fois le même coup. Alors, ils auraient pu se douter aussi que du coup, je faisais le coup inverse, toi. C'est vrai que t'as un petit côté double guessing. Là, juste avec ces deux cartes. Donc, imagine, du coup, après, avec tout le reste. Est-ce qu'on a encore assez peu exploré? Je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités sur le coup de la carte que tu reposes par-dessus une autre. C'est un truc qu'on exploite assez peu, en tout cas, pour l'instant. Mais je pense qu'il y a des trucs assez sioux à faire aussi, quoi.
Et du coup, est-ce que ça incite à bluffer, enfin à parler autour, à palabrer, à se moquer, à provoquer?
Énorme. Ça c'est moi je joue tout à la provoque, quoi. Après, ça dépend des gens aussi, j'imagine, mais là clairement, en fait, ce qui va se passer, c'est que les points que t'accumules, ils sont visibles. Mais t'as les points qui sont visibles, qui sont acquis, et t'as les points qui sont potentiels, qui sont sur le dos des cartes.
Ah oui.
Et encore plus, les points du complot, qui sont potentiels x2, tu vois.
D'accord.
Et évidemment que personne d'autre connaît à part le propriétaire. Mais évidemment, tu vois une carte avec deux jetons dessus, tu te dis, regarde, il a son complot, là, tu vois. Il faut le buter.
Ouais.
Ou alors, si ça t'arrange pas, tu dis que c'est l'embuscade.
Et en plus, du coup, on a une information partielle. On sait peut-être qui est le premier, mais c'est pas une information sûre. Parce que souvent, ça peut être un couac de design où on voit qui est le premier joueur. Du coup, les autres s'acharnent sur lui. Un autre devient premier joueur, tout le monde s'acharne sur lui. Et ça peut amener le jeu à durer un peu trop longtemps, comme dans Munchkin, hein, bien sûr, qui dure toujours 4 heures de trop. Et donc là, si je comprends bien, en fait, on sait jamais trop qui est devant.
Alors, comme je disais, en fait, t'as celui qui est clairement devant, c'est lui qui est devant, parce que c'est les points qui sont acquis. Sauf qu'effectivement, c'est un truc que j'ai pas encore bien cerné pourquoi. Je sais pas si c'est juste contre moi. En fait, je trouve que le jeu a un côté tête brûlée. Enfin, j'ai appelé ça comme ça, c'est-à-dire que t'as beau des fois chercher à convaincre sciemment et de bonne foi les autres joueurs que c'est pas toi qui es en tête, que c'est bien ton voisin de gauche qui est en tête, et que c'est bien lui qu'il faut arrêter, parce qu'il a quand même 5 points de plus que toi. Non mais toi, enfin je veux dire, le plus gros score qu'on a fait, c'est 20. Donc 5 points, c'est conséquent quand même. C'est genre évident, toi t'as une carte sur la table, lui il y en a encore deux, il a 5 points d'avance, tu fais bon bah je sais pas, taper le lui quoi. Et bah des fois non, les gens ils vont quand même taper quelqu'un d'autre. Toi c'est alors parce que je pense que c'est peut-être lié à la durée de partie. Ou peut-être aussi parce que, comme tu le dis, en fait, comme il y a quand même une incertitude sur est-ce que c'est vraiment lui qui va gagner à la fin, c'est pas parce qu'il a 5 points d'avance maintenant qu'il les aura quand même après. Je sais pas. N'empêche que moi, ce que j'ai constaté, c'est que, ça, je trouve que c'est quand même un petit défaut du jeu, c'est que je trouve qu'on voit assez vite qui est-ce qui va gagner. Souvent, il y a 6 manches, mais à la 4e, les jeux sont un peu faits, quoi.
D'accord.
Et c'est pas toujours évident quand même de renverser la situation si la personne a quand même pas mal d'avance. Après bon le jeu il dure pas très longtemps. Et j'ai aussi beaucoup joué avec des gens pour qui c'était la première fois. Il y a qu'une fois où on a fait deux parties d'affilée du coup vraiment avec des gens du coup les mêmes personnes.
D'accord. Donc peut-être que ça se corrige ça une fois qu'on maîtrise mieux certaines interactions et qu'on a vu certains coups tactiques.
Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être rejoué avec les mêmes joueurs. En tout cas, c'est un super bon filler, toi, 15 minutes. C'est un cran au-dessus de Love Letter. Donc, du coup, je pense que c'est un bon filler pour les gens qui aiment les jeux costauds. Ils vont trouver ça plus intéressant qu'un Love Letter, hein, par exemple.
D'accord. Oui, parce que souvent, c'est les jeux de ce type-là. On a parlé de quoi? On a parlé de Citadel.
Citadel, c'est vachement plus long.
En attendant le quatrième joueur pour faire un Agricola, on va pas commencer un Citadel. Il n'y a pas assez de muscles.
Alors, en revanche, les configurations, pour moi, c'est 4 ou 5. 3, j'avoue, j'ai fait qu'une seule partie, mais je l'ai trouvé vachement moins intéressante que les autres.
D'accord.
Enfin, vachement, je suis un peu méchant. En fait, comme il y a moins de cartes au milieu de la table, ça a moins. Il faut qu'il y ait le côté chaotique quand même dans le jeu. Tu vois, c'est quand même, il y a quand même un gros intérêt au côté chaotique et au côté parlante, etc. Du coup, à 3, ça se réduit quoi, cet aspect-là.
Voilà. Bien sûr.
Tu vois, il y a que 10 cartes. Mais au final, l'ensemble des configurations que ça peut former, font que tu vas quand même te référer au livre de règles pour quelques subtilités. Parce que tu te retrouves vite avec des cas un peu particuliers. Alors typiquement, il y a le décret royal, qui est une carte qui permet de bouger une autre carte sur la file. Et là, c'est un peu ambigu au niveau des règles, c'est pas très clair sur est-ce que typiquement on peut bouger une carte par-dessus une autre.
D'accord.
Est-ce qu'on pourrait bouger une carte qui est en dessous du décret royal? Parce que c'est Cargo Zoster qui se posait la question. Du coup, on a eu la réponse de la part de Forge Next. Et typiquement, le décret royal, en fait, il peut bouger une carte qui est au-dessus d'une pile ou enfin une carte seule, quoi. Évidemment, une carte qui est entre guillemets disponible.
D'accord, d'accord.
Ah, mais ça, c'est pas. J'ai relu les règles, j'ai pas vu cette précision, hein. Ça me paraît pas évident, quoi, lire les règles.
Oui, c'est souvent l'envers de jeux comme ça qui ont une richesse émergente assez importante, c'est que tout n'est pas forcément prévu, et on peut pas tout imprimer dans un livret de règles. Mmh. Je pense aussi à Keyforge, hein, qui est avec des effets de tempo ou d'enchaînement de certains événements.
Ouais, les jeux de combo, quoi. Et en fait, effectivement, là, je l'ai pas dit, mais il y a une petite dimension combo, mais c'est des petits combos, quoi. Tu fais pas des trucs, je veux dire, la combinatoire, les combos des cartes, avec un petit peu de temps, tu pourrais définir l'ensemble des combos possibles, quoi. Tandis qu'il y a quand même que 10 cartes. Donc effectivement, ouais, il y a cette petite dimension-là. Pourtant, quand même, je souligne que dans les règles, au niveau de, il y a une partie sur les capacités des personnages, il y a quand même des précisions qui sont apportées et qui, la plupart du temps, en fait, te donnent la solution à ce que tu cherches.
Ok.
Typiquement, il y a un truc avec le change-forme, et l'héritier, parce qu'en fait, le change-forme, il va copier. Ah oui, pardon, j'ai pas parlé du change-forme. Oh là là, j'ai pas parlé du change-forme. Le change-forme, il copie l'effet d'une carte qui est à côté de lui. Hein. Voilà.
D'accord.
Forcément révélé. Et s'il copie l'héritier, tu fais oula, attends, hein, donc ça veut dire qu'il y a deux héritiers.
Est-ce qu'il est héritier ou est-ce que c'est un change-forme qui est tout seul et qui gagne des points s'il est tout seul?
C'est ça, voilà. Il est tout seul et s'il est tout seul, il gagne des points parce qu'en fait, il copie l'effet de l'héritier. L'héritier étant que il faut que ce soit la carte qui porte le même nom que lui. Enfin, bref, c'est une question de nom de carte. Voilà.
Ouais. Donc, mais c'est comme dans le jeu Fantasy Realms, il y a aussi un change-forme comme ça qui pose des problèmes.
Ouais.
C'est toujours le change-forme qui pose des problèmes.
Ouais, bah oui, bah forcément, parce que là, ouais, faut qu'il copie des trucs, donc ça devient tordu, ça devient tordu. Voilà.
Bon, ça ressemble aussi un petit peu à Magic, là, parce que du coup, je pense au Doppelganger VSUV1 qui essayait de copier les cartes adverses, mais on savait plus de quelle couleur il était.
Ouais, c'est vrai, il y a... Oui, bah, c'est l'aspect combo, en fait, hein, qui fait ça. Hein. Et l'univers aussi, parce qu'on est quand même dans un univers médiéval. Un peu, on ne sait pas trop, fantastique. Bon, il y a le change-forme, tu vois, qui nous fait penser qu'il y a un petit peu quelque chose de pas tout à fait net dans cet univers, qui n'est peut-être pas tout à fait normal, et qui nous rappelle aussi à Game of Thrones, pour ceux qui ont dépassé la première saison quand même. Voilà.
Attention, spoiler de la saison 5.
Ouais, je ne sais pas quelle saison, mais pour un truc dans cet endroit-là. Ouais. Voilà. Pour du coup, pour parler un peu du thème, puisqu'on a commencé. Forgenext m'a dit en fait clairement c'est dans une vidéo d'interview de Ludovox. Ludovox a interviewé à Essen des gens de Studio H qui ont dit qu'effectivement c'était assez délibéré quand même, hein, l'inspiration Game of Thrones. En fait, tu retrouves en fait sur les... Alors, il n'y a pas de nom aux familles, mais par exemple, il y a une des familles dont le symbole c'est un kraken. Il y a une famille dont le symbole, c'est quand même un truc qui ressemble vachement à un dragon. Tout n'est pas fidèle, tu vois. Il y a pas de loup, par exemple. Il y a pas de, voilà. Mais tu vois qu'ils ont distillé des petits trucs par-ci, par-là. Et puis, bah, en fait, l'illustrateur, il a quand même illustré des, le JCE.
Oui, oui.
De Game of Thrones.
Il intervient sur les JCE, ouais. Chez Fantasy.
Ouais, il a pas dû être choisi non plus au hasard par rapport à ça, quoi.
Et du coup, c'est la même, par exemple, l'héritier, c'est la même illustration dans les six familles,
oui,
ou
Oui.
Et c'est la couleur qui change, ou c'est daltonien friendly?
En fait, alors c'est daltonien friendly parce qu'il y a le symbole de la famille.
D'accord.
Qui est effectivement un animal. Je dis pas de bêtises, que des animaux. Ou animaux fantastiques. Donc oui, c'est daltonien friendly. Mais oui, il y a pas d'illustration différente d'une famille à une autre. Je parlais du thème. Donc c'est pas non plus méga immersif, hein. Voilà, c'est, enfin, je pense qu'on l'aura compris, en général les jeux qui jouent en 15 minutes, c'est pas non plus voilà. Pour autant, il y a quand même les effets des cartes, eux, sont raccord, parce que bah voilà, t'as de l'assassinat, t'as vu, enfin, on l'a dit en rigolant au début, hein, le coup du complot, de la ruse et du sang. Bon bah voilà, t'as fait le premier tour, t'as compris, quoi. Ça, c'est rare qu'il n'y ait pas une carte qui gicle au premier tour.
D'accord. Mais ça aurait pu, au fait, être dans un autre thème, comme dans une république bananière,
ouais, oui.
Pendant la guerre froide, comme Junta.
Oui, tout à fait. Là, c'est juste
où on se cache, on complote, ou ce genre de choses.
C'est juste, okay. Que tu vois, contrairement à Blitzkrieg, où le thème est sûrement pas très grand public, bah, celui-là, il est peut-être un peu plus, quoi. Voilà.
Ouais, clairement.
On sent que la cible est pas tout à fait la même. Même si c'est pas une cible familiale, dans Riflame. C'est accessible pour le familial, mais on va dire que le thème, lui, il est pas méga familial.
Mm-hmm.
Tu en tues quand même des gens, quoi.
Souvent.
Ouais, souvent. On en tue pas mal, quand même. Et puis, donc, ouais, pour finir sur le thème, j'ai les effets des cartes, ok, mais bon, mécaniquement, il n'y a pas une adéquation. Mécanique thème, tu poses une carte. Bon, ok, on peut se prendre à croire qu'on est au milieu de la cour et que, voilà, on va dire, on va placer lui à côté d'un tel. Alors, ça marche pour l'assassin, ou encore même pas l'assassin, toi, il tue à distance, donc t'as même pas besoin de le mettre à côté. Mais bon, pour le soldat, il faut que tu le mettes à côté, donc bon, ça, tu peux te dire, oh, bah tiens, je vais aller le placer là, mais tu peux pas le mettre au milieu, tu peux le mettre que sur les bords, donc tu vois, c'est là que ça pète un peu l'adéquation thème mécanique, on va dire.
Ça voudrait dire que les gens sont dans un même couloir.
Oui, c'est ça, voilà. En finale,
et qu'on laisse le soldat Kraken se positionner juste à côté de la princesse,
ouais,
Lyon.
Ça, ouais.
Et lui mettre un gros coup de hache dans la tronche sans que ça gêne personne. Et le cadavre est là,
ouais,
et tout va bien.
Ouais.
Et on continue, et on met l'héritier dragon sur le corps de la princesse, parce que le spot est vachement bien.
Voilà, bah, t'as compris, quoi. Voilà. Bon, c'est pas décrit comme ça, en tout cas, dans les règles.
Ah, ok.
Donc, ouais, voilà pour le thème.
Bon, du coup, c'est joli, au moins, si on a un super illustrateur.
Alors moi, je suis pas méga fan du style, j'avoue. Au niveau des illustrations, il me semble que Torgal est fait un peu dans le même style.
D'accord.
Pour les amateurs de BD, ça doit parler du coup.
Un peu fouillis, pas mal d'ombre.
En peut-être plus sombre que Torgal, quoi, pour le coup.
En plus sombre, d'accord.
Ouais. Mais toi, c'est cet effet un peu où, je dirais pas on a jeté de la peinture, mais tu vois, on a vraiment la sensation de voir les traces de pinceau, quoi.
Oui.
Avec un jeu d'ombre et de lumière. Tout est un peu dans l'obscurité quand même, parce que bon, on fait t'as compris qu'il se passait pas de très cool, quoi.
Ce sont les âges sombres.
Ouais, voilà, dans ce style là mais bon, après c'est personnel, moi je suis pas méga fan, mais au final ça rend bien, hein. Et en tout cas, les amateurs de la BD Torgal, je pense, vont déjà me huer de un, et de deux, vont beaucoup aimer.
Ah, c'est une grande histoire d'amour entre le style BD et Proxy Jeux.
Ouais, non, mais t'as vu, là, attends, j'ai pas dit le style BD. J'ai donné quand même, tu vois, un titre, un nom précis. Voilà, même si je connais pas le style qui est derrière, mais voilà, j'ai donné au moins un exemple. Je fais des efforts, hein, soyez indulgents. Mais effectivement, c'est pas mon rayon. Benoît, ça lui aurait peut-être plus parlé, pour le coup, tu vois. Tu nous manques, Benoît, dans cette chronique, parce que je trouve qu'il est très amateur de bande dessinée. En tout cas, il faut aimer le style. Moi, au final, je trouve que ça rend bien, hein. C'est juste que quand je regarde les illustrations dans le détail, je suis pas fan, mais tu vois, quand c'est posé sur la table, je trouve que ça rend chouette.
Mmh. Parce qu'il y avait des illustrations, c'était Mascarade là qui est sorti il y a quelques années aussi, un peu dans ce style là, complot, bluff, trahison.
Ah oui, dans le style de jeu.
Mais ouais. Je crois que c'était Jérémy Masson, son illustrateur, mais c'était beaucoup plus lumineux, beaucoup ouais. plus clair, ouais. Un peu vénitien.
Là, pour le coup, tu vois, je trouve que l'illustration elle est beaucoup plus raccord avec le thème du jeu. Il y a vraiment ce côté un peu pesant, un peu sombre. C'est pour ça, je pense aussi que ça rend bien. Tu vois. C'est là pour le coup. Autant tu vois l'adéquation thème mécanique, je la trouve pas top. Autant l'adéquation, elle est pas top. Mais voilà, c'est pas ce qu'on demande au jeu. Autant l'adéquation entre l'illustration et le jeu, et là même, tu vois, et le thème et la mécanique pour le coup, là je trouve que ça marche bien.
D'accord, j'ai compris.
Bon, je pense que vous aurez compris que c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'interactions. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Hein. Ça va discuter autour de la table pour savoir quel genre de carte il faut mettre, où il faut la mettre. Voilà. On va tenter de provoquer les adversaires, de les influencer, même si, comme disait Plour, en tout cas dans les parties que j'ai faites moi, ça marche pas. Les gens me connaissent trop. Ils pensent que je raconte tout le temps des bobards, mais des fois, je le dis à raison. Je dis à raison, il faut jouer cette carte-là. Écoutez-moi, s'il vous plaît.
Mais ils n'ont plus confiance.
Ils n'ont plus confiance.
Ils se souviennent de la partie de diplomatie en 2012. Ils n'ont plus confiance.
C'est un truc dans le genre, sûrement. C'était pas diplomatie, c'est sûr, mais voilà. Au niveau ergonomique, tu vois, la petite idée d'avoir foutu une tuile qui indique le sens de lecture, le sens de résolution, bah c'est tout bête, mais il fallait le faire, parce que sinon, ouais. Je pense qu'une partie sur deux, t'en as un qui dit « Ah mince, mais je croyais que le début était là !» Donc là, franchement, j'ai jamais eu le problème.
Ouais, c'est une bonne idée, et puis ça évite que quelqu'un dise « Vous pouvez me rappeler où c'est le début, parce que
oui,
je ça, vous dis je, pas je, que je vais je... mettre une carte tout au début, mais j'aimerais bien savoir où c'est le début
ouais. !» Tu trouves que les cartes sont d'une qualité qu'on aurait pu attendre mieux. Tu vois, au toucher et tout, c'est les cartes toutes lisses qui ont pas d'effet toilé. Je trouve que j'aurais aimé un truc un peu plus qualitatif. C'est des cartes qui sont format tarot, donc allongées. D'accord. Donc ceux qui aiment bien slipper, ils vont râler. Bon, moi, je slip pas, mais bon, voilà. Ben, ils vont râler parce qu'il faut acheter des sleeves spéciales. Alors après, peut-être que tu vois, je sais que beaucoup de jeux qui jouent beaucoup sur l'illustration vont pas sur de la carte toilée, etc. Je sais pas si c'est aussi pour mieux rendre l'illustration. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Hein.
Comment ça s'appelle, Les Chevaliers de la Table Ronde, qui était un des premiers jeux très très bien illustrés comme ouais. ça. Les cartes étaient toilées et ça diminuait pas leur qualité esthétique du tout.
Le jeu est dans une boîte, alors je pense que ça va être une gamme qu'ils vont créer du coup chez Studio H. Hein. C'est une boîte qui est pas très grande. C'est un peu plus grand qu'un format Citadel, pour reprendre un exemple déjà cité. C'est une boîte fourreau tiroir. Donc il y a un.
Ça.
Voilà. Bah voilà.
Ça a l'avantage, c'est que ça coûte moins cher.
Bah je sais pas. Franchement, qu'une boîte cloche. Franchement, en tout cas en matière, il y en a plus même. Puisque non, il y en a pas plus. Il y en a plus. Il y a plus de matière. Donc je suis pas sûr que ce soit moins cher.
Ouais, je crois qu'il y a moins d'opérations.
Peut-être. Peut-être.
Notamment pour, je pense que ton tiroir est pas illustré à son dos.
Si, en plus, il l'est.
Ah, bon.
Il y a les dessins des familles, tu vois, j'avais pas regardé, mais Bah, écoute, c'est une question intéressante, on la posera à Lutofact. Donc ouais, effectivement, moi non plus, je suis pas méga fan. Bah, faut surtout pas attraper la boîte à la verticale et laisser tomber le tiroir, quoi, bon. ça serait ballot. Pour revenir un peu aux généralités, donc j'ai dit, c'est plutôt un jeu qui se destine quand même à un public, je pense, assez joueur, même s'il est simple, mais on est au-dessus d'un Love Letter. Je pense qu'on est dans la même catégorie qu'un Citadel en termes de difficulté, donc ça reste quand même accessible. Hein, franchement, ça reste accessible, mais là, c'est peut-être le thème qui va faire que bah tu vas pas jouer avec ton gamin de 8 ans, quoi. Le jeu est donné à partir de 10 ans.
D'accord.
Ouais, c'est peut-être pour les subtilités d'effets, hein, qui sont un petit peu, toi, comme je disais, même à mon âge, hein, je suis obligé d'aller me référer aux règles, parfois, pour bien analyser une combinaison d'effets.
Oui.
Les gens qui apprécient l'univers de Game of Thrones, tu vois, ils vont vraiment sentir la note, enfin en tout cas la référence à Game of Thrones. Et je pense que tu vas vite parler des familles de Game of Thrones. Hein. Tu vas vite oublier les couleurs. c'est marrant d'ailleurs parce que je pense que si t'as envie de la jouer Game of Thrones, tu vas pas parler, tu vas pas dire c'est à telle couleur de jouer, toi. Tu vas dire c'est au Stark ou.
Aux Targaryennes.
Ce genre de choses, quoi, tu vois. Il y a moyen que ça switch, tu vois.
D'accord.
Et à mon sens, c'est vraiment le filler parfait. Entre deux jeux, t'as envie de, soit tu finis la soirée, t'as plus beaucoup de temps. Typiquement, c'est ce qui nous est arrivé, nous, hier. Il nous restait pas beaucoup de temps. On a dit, bon, on fait une partie de ça. Je vous assure, ça durera 15 minutes. Et puis au final, on en a fait une deuxième derrière.
C'est la marque des bons jeux.
Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est très rare que j'enchaîne deux parties d'un même jeu. Et là, pour le coup, j'étais surpris. Les joueurs un matin m'ont dit, ouais, on en fait une deuxième. Oh, bah ouais, ok. Alors, faut quand même pas oublier, parce que je dis, ça s'adresse aux gamers, mais c'est les gamers qui sont prêts à jouer à des jeux légers, parce que il y a quand même une dimension de hasard qui est vraiment pas négligeable. Il y a vraiment, tu peux te retrouver à avoir éliminé deux cartes au début, qui sont des cartes pour tuer les cartes adverses.
Ah oui, le soldat, l'assassin, tout ça.
Ouais, ça va être un peu chaud, quoi. Tu vas avoir une partie qui va être un peu compliquée si t'as ces deux cartes-là en moins.
Pareil, si t'as pas les deux cartes pour bluffer, là, le complot et l'embuscade, c'est peut-être moins drôle aussi.
Bah ouais, c'est ça, ouais.
D'essayer de faire semblant.
Ouais, c'est ça, c'est moins drôle d'essayer de faire semblant quand c'est vraiment pas la carte, quoi. Bon, voilà. Mais bon, bah, ouais, tu refais une partie derrière, et voilà. Bref, un jeu que je recommande vraiment plutôt à 4 ou 5, mais voilà, c'est vraiment, toi, c'est vraiment, à mon avis, c'est à 4 ou 5, t'as vraiment l'essence du jeu, quoi. À 3, pour moi, c'est limite, ça a été, je suis sûr qu'ils sont persuadés eux-mêmes que c'est un peu moins bien, tu vois, mais.
Mécaniquement, ça marche, mais ça donne voilà, pas tout le sel prévu par ce jeu-là.
Exactement, t'as compris.
C'est bien, c'est comme Citadel, c'est comme Intrigue,
oui,
ces jeux de bluff. Quand on est à 3, c'est 2 contre 1 souvent et l'expérience n'est pas aussi satisfaisante.
Dans tous les jeux, il y a des configurations optimales. C'est quand même rare les jeux qui annoncent un 2 à 4 et que le 2 à 4 il soit vraiment. Soit c'est des expériences différentes. En l'occurrence, là, on peut dire aussi que c'est une expérience un peu différente, mais à mon sens, c'est vraiment pas, comme tu l'as dit, c'est pas là qu'on sent tout le sel du jeu, quoi. Voilà. À savoir au niveau des extensions, moi j'ai eu un petit goodies à Essen, parce que j'ai acheté le jeu à Essen, qui est un goodies auquel je n'ai encore jamais joué, donc parce que les goodies, c'est bien, mais ça sert à rien. Non, en fait. J'aime bien.
Et ça se retrouve à 2€ sur Ocaseo au bout de 6 mois.
J'aime bien placer des punchlines pour rien comme ça. Bon. le petit goodies, en fait, c'est une petite tuile que chaque joueur possède. Et à n'importe quel moment dans la partie, il va pouvoir le placer devant une carte qui est face cachée. Et au moment où la carte sera révélée, il va pouvoir dire « Ah, moi je pense que c'est telle carte ». Et s'il réussit, il gagne un point. Voilà.
Ouais.
Alors pourquoi en fait moi j'ai encore jamais joué, parce que déjà de une effectivement je joue régulièrement, enfin pour l'instant j'ai tout le temps joué avec des groupes différents, c'est 6 groupes différents quand même, mais bon c'est 6 quand même et donc du coup je vois pas trop l'intérêt d'ajouter un truc en plus sur une première partie, mais en plus c'est un point ce truc là et attends, c'est un point ou c'est deux points parce que là je vois un 2. Ah c'est deux points.
Ah.
C'est deux points et, mais en fait les parties elles se sont. Ouais, j'ai peut-être une ou deux parties qui se sont jouées à deux points après, mais voilà, la plupart du temps, elles se sont jouées à plus de points. Donc du coup, j'ai pas ressenti le besoin de la jouer. Mais clairement, ça va ajouter une dimension de bluff et de guessing dans le jeu. Ça paraît assez évident, quoi. Et je sais du coup de source de Forge Next qu'il travaille au développement, enfin qu'il travaille encore au développement du jeu. En gros, pour l'instant, le jeu a fait un bon démarrage en boutique.
Excellent.
Il n'est a priori pas prévu de rupture encore pour le moment.
Encore mieux.
Du coup, j'ai posé la question parce que quand même, d'habitude, on a toujours au moins un jeu en rupture. Donc je me suis dit, pourvu que ce soit pas le mien, tu vois, ce sera peut-être le tien du coup.
Ça sera le mien du coup.
Bah, ce sera le tien du coup a priori des sources que j'ai obtenues. Enfin non, c'est ce que m'a dit Studio H. Ils ont fait un bon premier tirage, on va dire, et ça part bien. Mais comme ils ont fait un bon premier tirage, pour l'instant, ils ont encore du stock.
Il y a du texte sur les cartes.
Il y a du texte sur les cartes, oui. Oui. Mais il y a aussi cette dimension lecture. Hein, c'est pour ça que je pense que si c'est 10 ans, enfin normalement 8, déjà ça va, mais.
Donc c'est pas juste une symbolique qui change sur les cartes et le texte, les règles qui portent la langue.
Ouais, oui.
Il y en a un peu sur les cartes aussi, ouais, d'accord.
Oui. Non, il y en a sur les cartes. Il y a une aide de jeu aussi qui reprend tous les pouvoirs. Je l'ai pas dit, mais c'est plutôt bienvenu parce que surtout pour les premières parties, tu connais pas tous les effets. Bon, tu les retiens assez vite, hein. Franchement, moi la troisième partie, j'avais tous les effets, quoi. Et pas de souci. Hein. Mais sur les premières parties, l'aide de jeu, elle est intéressante. Quand tu reviens plus tard, voilà. Donc ForgeNext travaille au développement du jeu, donc si effectivement, je pense que si le jeu continue à bien s'installer, il y a des chances qu'il y ait une extension qui vienne. Et à mon avis, c'est le genre d'extension qui peut être une bonne extension, parce que dans ces jeux dans lesquels les règles sont portées par les cartes, en général, on obtient des bonnes extensions si on arrive à faire des bons effets. Et tout le travail pour eux, à mon avis, il est là, c'est de trouver les bons effets qui vont permettre de casser le metagame qui a été mis en place dans le jeu initial. Là, clairement, il va y avoir des schémas qui vont se mettre en place, du coup du metagame, et les joueurs vont chercher à casser le metagame avec le jeu en place, mais aussi du coup avec une extension qui va permettre de renouveler l'expérience et le metagame. Maintenant, reste à savoir comment ils veulent tourner ça. On les laisse travailler un peu, quoi.
Avec des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs, ou on fait des grilles au lieu de juste une ligne.
Je sais pas, écoute.
Ce serait génial.
Peut-être, j'en sais rien. Ils seront plus dans un couloir, ils seront dans une cour. écoute, on leur donne peut-être des idées, qui sait. Voilà. Non, mais tu vois, typiquement, je suis pas sûr que on ajoute des personnages et on mélange tout et on en pioche toujours 7, ce soit vraiment intéressant qu'on en pioche 7 parmi je vais dire n'importe quoi, mais parmi 15 ou 20. Je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant.
Oui.
À mon avis, toi, ça me paraît plus intéressant de dire tout le monde part avec ces 10 cartes là et tu en enlèves 3 et tu continues à jouer comme ça. Ou alors éventuellement t'ajoutes peut-être un tour ou deux, je sais pas, mais ça me paraît oui, délicat de dire les gens ils vont vraiment avoir des cartes complètement différentes les uns des autres, par exemple.
Il pourrait faire aussi un autre standalone qui s'appellerait pas Oriflamme mais Fanal ou Fanion, où tu aurais le même principe et en fait t'as dix cartes différentes et c'est les mêmes règles sauf que c'est pas les mêmes pouvoirs d'une boîte sur l'autre. Mmh. Elles seraient pas mélangeables,
par exemple.
Ça serait peut-être la différence avec un Dominion, mais mais effectivement, si les joueurs prennent sur cette dynamique-là, ça leur ouvre des boulevards là de développement pour le futur.
Mmh. Ouais, c'est clair. Voilà, on a il y a moyen effectivement si le jeu se développe que ça devienne finalement une sorte de game system, quoi. Voilà. Bref, on va les laisser travailler maintenant.
Excellent. Non, mais comme ça, on a deux jeux, 15-20 minutes. Si vous êtes que deux, il y a Blitzkrieg. Si vous êtes quatre ou cinq, il y a Oriflamme. Si vous êtes trois, faites autre chose.
C'est ça, ouais. J'avoue qu'on va recommander comme ça, plutôt. Ouais. Donc, c'était Oriflamme, un jeu d'Adrien et Axel Essling, édité par Studio H, distribué chez Gigabink. La direction artistique du jeu a été assurée par ForgeNext, ainsi que le développement. Le jeu a été illustré par Thomas Jedrusek. C'est un jeu qui se joue 2, 3, 5, mais je vous le conseille à partir de 4. À partir de 10 ans, des parties de moins de 20 minutes, 15€ chez Philibert. Vous aurez le lien sur le billet. Voilà.
Et normalement, celui-là est disponible, et c'est pas le mien qui sera disponible.
Bah, je sais pas.
Il ne peut en rester qu'un.
En même temps, c'était Noël il y a pas longtemps, donc peut-être que les deux seront disponibles.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous laisser un commentaire et nous dire à quel point vous aimez ce qu'on fait, comme Kinarbre, nous envoyer des critiques positives et plein d'amour par commentaire. Si en plus vous voulez nous envoyer un petit peu d'argent, on a un Tipeee et un PayPal, tout est sur le site. Mmh. Si vous n'avez pas aimé cette émission, venez aussi nous le dire, vous avez des commentaires pour ça. Bon, il y a aussi Twitter ou Facebook, mais on préfère avoir les commentaires comme ça. Nos poditeurs et poditrices peuvent aussi participer à la conversation.
Voilà. Et quand on fait l'épisode suivant aussi, ben on revient sur les commentaires, alors qu'on ne retourne pas sur Twitter et Facebook.
Alors surtout, si vous avez encore 15 minutes ou 20 minutes, il y a plein de jeux à faire. C'était un petit peu le thème de ce jeu du mois. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, jouez bien.